c'est le là, un pinou dans la galerie.
Je ne connais pas cette chanson.
Qu'est-ce que c'est ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Tu veux que je dise d'aller se faire enculer?
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe. On va commencer par Juan.
Bonjour.
Yo. Elodie.
Salut.
Salut. Karim.
Wesh.
Ah, ça va ? Bah nickel, et vous ?
Mieux.
Et toi, Elias?
Ah, oh.
Comment ça va?
Et ben voilà.
Comment... Il prend les devants de plus en plus. Il te demande de plus en plus.
Bonjour et bienvenue, Elias. Toi, comment ça va aujourd'hui?
Mais et ça me fait.
Mais de quoi tu vas nous parler?
Ouais. Alors. Non, et ça fait plaisir de vous retrouver. On avait déjà eu Elodie un épisode précédent. Aujourd'hui, elle va nous présenter un sujet.
Elle avait été discrète.
Elle avait été cachée sur le canapé.
C'est
entre
vrai.
Les chips.
Sachant que se cacher sur le canapé,
et
c'est plutôt
pierres.
Nul comme cachette.
Oui. Bon, on va aujourd'hui. Non, elle est au micro. Bah tiens, d'ailleurs, tu vas nous parler de quoi?
Des cinq sens, mais pas chez les animaux, chez les plantes.
Ah, cool.
Nice.
Parce qu'elles ont des sens.
On dirait une chanson de trio.
Laissez tranquille les herbes et les animaux.
Merci.
Pardon. Juan, de quoi tu veux nous parler?
Moi, je vais vous parler du langage de survie en start-up.
Ah, ça me plaît bien, ça.
Genre de lexique qu'on avait fait l'autre fois avec des termes du cinéma, mais sur les start-up, je vais compter sur vous d'ailleurs, parce que je pense qu'on en connaît déjà une bonne partie. Peut-être qu'on en découvrira un ou deux, mais c'est genre, surtout un rappel.
Genre avec les colazap.
Voilà.
Et puis on a tous regardé Silicon Valley.
Non.
Pas tous, non. Mais c'est vrai que ça vaut le coup.
T'as regardé Silicon Valley?
Pas encore.
C'est vrai que ça vaut le coup.
La saison 1 est cool.
On regardera. Et toi, Karim, de quoi tu vas nous parler?
C'est pas Elias de poser la question, normalement?
C'est bien, voilà. On respecte les managers. Alors, de quoi tu vas nous parler, Karim?
Eh bien, moi, je vais vous parler du Bitcoin.
Ah,
nice.
Du Bitcoin?
Tout à fait.
Le Bitcoin.
Le Bitcoin, c'est parfait. Eh bien, j'ai hâte.
Et toi?
J'ai hâte.
Elias. Je t'ai grillé, Karim.
J'avais encore...
Ça fait plaisir. Battez-vous. Moi, je vais vous parler du meilleur spectacle gratuit sur Terre. C'est un petit teasing, vous verrez.
Rien que ça?
Ouais, ça déconne pas.
Est-ce qu'on parle d'un concert de Pete Doherty?
Non, parce que déjà, c'est pas gratuit.
Ce serait loin d'être le meilleur.
Ouais. Oui, parce que quitte à avoir des gens bourrés et défoncés, tu peux aller dans Paris, enfin, un peu tard, tu trouves hein, de quoi faire.
Bah du coup Karim, puisque tu ouvres ta gueule, on va commencer avec toi.
People exchange money by changing this file. So who maintains this ledger and makes sure no one cheats? How Bitcoin works under the hood.
Merci beaucoup pour cet excellent sample basé sur mon groupe préféré Pink Floyd. Enculé. Alors le Bitcoin. C'est une monnaie qui a été créée en 2009 par un mec qui s'appelle Satoshi Nakamoto.
On croit qu'il s'appelle Satoshi Nakamoto.
Ouais, voilà, on sait pas vraiment qui c'est. Le mec, il dit qu'il est japonais, qu'il a à peu près 35 ans, mais en fait, en fonction des heures de connexion et son style d'écriture, il y a des grosses suspicions qui disent que ce serait plutôt quelqu'un de type anglais, voire même un groupe entier de personnes spécialisées dans le hacking et la cryptographie.
Un groupe entier.
Excellent. Moi, je savais que c'était un pseudonyme, mais je pensais pas que c'était carrément un groupe de personnes.
C'est la compagnie créole qui appelle Bitcoin.
Et il s'est donné un surnom japonais, quoi.
Ce que j'ai dit, un groupe entier, mais vous avez compris, entier.
Ah, ça veut dire un groupe entier, d'accord.
Ah.
Ok.
C'est pas un groupe entier, c'est un groupe entier.
Très bien. Donc, un groupe entier de personnes a créé le Bitcoin en 2009.
Ok, ce sujet commence extrêmement bien.
Pardon, vas-y.
On en a tous entendu parler, mais quand c'est sorti, je sais pas vous, mais moi je me suis dit, mais comment c'est possible de créer une monnaie virtuelle? Alors pour ça, pour essayer de vous faire comprendre comment moi j'ai compris toute cette affaire, je vais essayer de revenir au fondement de l'économie et de vous expliquer comment moi j'ai compris tout ça. Le but c'est pas de vous donner un cours d'histoire, c'est plutôt d'illustrer des concepts par des exemples qui ont eu lieu.
Cool.
Donc on va commencer très simple. Est-ce que vous avez déjà vécu en couple ou en colocation?
Oui.
Non.
Pas obligé de pointer ma vie sentimentale du doigt.
Tu n'as jamais vécu en colocation, Elias?
Si.
C'est bizarre parce que là où j'habite maintenant, c'est là où tu habitais avant.
C'est vrai.
J'ai l'impression qu'il y avait
plusieurs
d'autres gens
personnes,
avec toi.
Ouais.
Est-ce que vous avez rencontré quelque type de problème dans votre colocation?
Non, nous étions très heureux en ménage.
Ménage.
Ménage pas loin.
Je pense qu'on parle plutôt de ce qui toucherait la thune.
Moi j'avais plutôt en tête la répartition, comme tu disais, du ménage ou de la vaisselle.
Alors, ouais, dès que tu vis en société.
C'est ça.
La vaisselle.
Alors, ce que tu peux faire, quand, imaginons, vous êtes deux colocs, vous vous mettez d'accord, il y en a un qui fait la vaisselle et l'autre qui va passer l'aspi. Jusque-là, tout va bien, on échange des services. Jusque-là, pas besoin d'argent. Pareil, quand tu étais petit, tu pouvais échanger ta version de Crash Team Racing contre ta version de Final Fantasy VII. C'est ce qui a donné lieu au troc. Jusqu'ici, pas de problème non plus. Le désavantage, c'est qu'il faut que chaque personne trouve de quoi échanger avec l'autre ou qu'on puisse rendre un service à l'autre personne. Mmh. Mais si je veux quelque chose d'une autre personne, mais que j'ai rien en contrepartie qui l'intéresse ou que je peux lui rendre aucun service, la situation est bloquée. On pourrait toujours essayer d'échanger un bien contre un autre bien de type facilement échangeable, ça veut dire fluide. On va prendre l'exemple à une certaine époque du sel qui était une denrée non périssable. Mais le problème, c'est que c'est très difficilement transportable. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à échanger avec des pierres précieuses ou des métaux.
Par ou des exemple, coquillages, non ?
Oui, voilà, il y a des coquillages aussi les à une époque. En Afrique,
les comment les ?
Les coris.
Les coris.
Oui, c'est...
C'était un coquillage qui servait de monnaie ?
Oui.
D'accord.
Classe.
Et maintenant, ça sert
De décoration.
En bijoux. Mm-hmm.
T'as les portefeuilles, il devait faire 20 tonnes.
Comme les pimps. Mm-hmm. Bah, justement, c'est pas très pratique. Mm. D'où les pièces en or, par exemple.
Malin.
Et donc l'avantage des pièces, c'est que on peut imprimer ou non, on dit pas du tout, on imprime pas du tout.
Estampiller.
Non, estampiller.
C'est interdit.
Avec avec la valeur par dessus. Imaginons qu'on crée une pièce d'or qui vaut 1, qui pèse 10 grammes d'or. Et ben, on a créé la première pièce. C'est en Lydie, en 650 avant Jésus-Christ, que la notion d'argent et de pièces estampillées a été créée. Et c'est d'ailleurs de là d'où vient le nom de la start-up Lydie, qui sert à rembourser ton pote quand il t'a payé
oui,
une bière au bar.
Effectivement, une
start-up française. Lydia, ouais,
Ah, c'est Lydia.
Lydia ou Lydie.
Ouais, je crois que c'est Lydia.
Ça existe encore ?
Ouais, ouais, c'est
assez récent.
D'ailleurs, je précise, c'est pas une erreur, c'est pas qu'on se trompe en disant Libye, c'était le royaume de Lydie. Ça s'appelait vraiment comme ça.
Ah, ok.
Oui, c'est pas un trompage dans le pays.
Non.
Donc cet argent, il peut servir de preuve d'un effort qui a été fourni, que ça soit un bien produit et revendu. Puis un service, ou alors un service qui a été rendu. Jusqu'à maintenant, dans l'histoire, on a une dépendance directe entre le matériau qui compose la pièce de monnaie, par exemple l'or, et la valeur qui est inscrite, par exemple 10. Mais au 7e siècle, pour des raisons pratiques, il y a des Chinois qui inventent la monnaie papier. En gros, c'est les billets de banque, quoi. Donc on appelle ça la monnaie fiduciaire. Sa valeur dépend de la confiance qu'ont les gens qui ont en l'organisme qui les émet, et non directement de la valeur de la
de
monnaie
lui-même.
En elle-même. Dans les faits, ce qui va se passer, c'est que, en fait, l'organisme qui les émet promet qu'elle va pouvoir rééchanger le billet contre de l'or.
Ouais, j'imagine qu'à l'époque, l'État devait dire « Bon, là, c'est le bordel, on transporte trop de richesses et il y a moyen de se faire braquer à tous les coins de rue, et en plus, on va transporter ces galères. Donc, si vous voulez, on se met à échanger des bouts de papier. » Et quand vous voudrez vraiment retirer cet argent, bah revenez vers nous et on vous file les richesses correspondantes, quoi.
Voilà, c'est ça. Sauf okay. que les gens s'échangeaient directement ces bouts de papier.
Mais peut-être qu'à la base, c'était supposément des mandats et petit à petit, c'est devenu plus pratique de les échanger directement.
Je pense que c'est ça, comme ça que ça s'appelait à la base, ouais.
Des genres de mandats, ouais.
Et au final, au fil du temps, on s'est rendu compte que personne ne rééchangeait ses billets de banque en papier contre de l'or, parce qu'ils voyaient bien qu'on pouvait obtenir ce qu'on voulait juste avec cette monnaie papier. Et c'est là qu'on peut commencer à comprendre que la valeur d'une monnaie dépend directement de la confiance que les gens ont en cette monnaie et non de la valeur directe que la monnaie a. Mmh. À partir de là, j'ai commencé à accepter et à comprendre qu'on pouvait créer une nouvelle monnaie et comment le Bitcoin pouvait fonctionner.
Ok. Mais ça me fait penser aussi à un des soucis. Je n'avais jamais pensé ça avec l'argent, mais ceux qui ont un métier, on va dire, assez ponctuel ou quelque chose d'assez spécifique, quand tu as besoin de t'acheter tous les jours de la bouffe ou payer un loyer, une habitation, etc., tu as besoin d'avoir un moyen de... Enfin, une personne qui va rendre un service deux fois par an, elle va besoin de pouvoir prouver sa force de travail, bref, sa richesse à quelqu'un, en fait, de manière régulière.
Il faut que tu répètes, j'ai pas compris.
Enfin, mettons, le mec qui va vendre du pain tous les jours.
Ouais.
Tous les jours, il peut aller voir quelqu'un d'autre et dire, bah tiens, si tu veux, je te file deux miches de pain et tu me files autre chose. Donc tous les jours, il peut choper le tout dont il a besoin.
Ouais.
Le mec qui construit des maisons, faut qu'il reçoive sa rente de manière régulière, sinon il peut pas acheter son pain tous les jours.
Ah oui, les trois premières années, le temps qu'il construise la maison, en effet. Ouais. Il faudrait qu'ils soient rémunérés à la tâche.
Et ils pourraient potentiellement changer des parpaings, mais c'est chiant.
Ah, puis ça fait lourd, t'imagines, taille des portefeuilles.
Maintenant qu'on a fait en sorte de pouvoir accepter l'idée qu'on pouvait créer une monnaie et qu'il n'y avait pas forcément besoin de fondement physique derrière, mais juste de la confiance, je vais enfin pouvoir commencer mon sujet.
Ah.
Alors, le Bitcoin, c'est une monnaie qui repose sur une technologie qui a été créée spécialement pour ça et qui s'appelle le blockchain. Donc, je vais d'abord vous expliquer ce qu'est et comment fonctionne le blockchain. Donc, c'est une technologie qui permet de garantir la création et l'échange de Bitcoin sur Internet. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec une monnaie classique, on fait appel à plusieurs tiers de confiance. On a la banque qui émet le virement, la banque qui reçoit le virement et généralement la Banque Centrale Européenne quand on fait un virement
inter-européen.
Dans les faits, tu pointes à la BNP, tu dis que tu veux faire un virement à Michel. Michel est la Société Générale, donc la BNP contacte la Banque Centrale Européenne qui contacte la Société Générale et puis tout le monde fait ses petits comptes et au final, Michel il reçoit son virement en gros 3 semaines après et ça t'a coûté 7,50€.
Donc on part du principe que tout est référencé dans un gros livre de comptes de la Banque Centrale.
C'est ça.
Et que tout le monde s'appelle Michel.
Enfin, tous tes copains s'appellent Michel. Et l'intérêt donc du Bitcoin, c'est de se passer des gouvernements, des banques et des entreprises tierces de manière générale. Par exemple, l'entreprise dont je vous ai parlé tout à l'heure, Lydia, c'est elle qui fait office d'intermédiaire. Mais imaginons que Lydia ou la BNP se fassent pirater. Et ben là, c'est d'ailleurs le scénario de la fin du film dans Fight Club. Ce qu'ils veulent, c'est remettre tous les comptes à zéro. Mmh. Du coup, ils essayent d'exploser tous les serveurs des grandes banques principales. Et bien, avec le blockchain, c'est quelque chose qui ne serait pas possible parce que au lieu de...
Centraliser.
Ouais, voilà. Au lieu de donner à une seule et unique entité la responsabilité de l'authentification des transactions, c'est un petit peu dur à digérer, mais en gros, au lieu qu'il y ait une seule entité qui centralise tout, eh bien, on a donné la responsabilité à tout le réseau. Donc, c'est tout le réseau, toutes les personnes qui créent et qui échangent des bitcoins qui vont s'assurer de l'authenticité de toutes les transactions.
Au lieu d'avoir un livre de compte, on a 12 millions de post-it.
Non, on a 12 millions de livres de compte.
De livres de compte.
Parce que chacun a l'entièreté de toutes les transactions qui ont été faites depuis le début.
Ouais, c'est comme si on donnait à chacun la possibilité lui-même de vérifier une partie. Et j'imagine que du coup, tu te sens plus en confiance parce que tu te dis, bon, bah, au moins, moi, j'ai fait ma part de travail de vérification, etc. Tu fais plus entièrement. Enfin, t'as plus une confiance aveugle nécessaire envers ta banque, quoi.
Non, pas du tout. Tout est totalement ouvert et transparent. C'est un peu une monnaie open source, quoi. Donc, concrètement, comment ça se passe? Lorsqu'on fait une transaction d'une personne à une autre, il y a des gens sur le réseau qui vérifient l'authenticité des transactions qui sont effectuées et regardent si c'est cohérent avec l'ensemble des transactions qui ont été effectuées précédemment. En gros, si tu veux dépenser 10 bitcoins, il va falloir que tu prouves dans tes transactions que tu as reçu au moins 10 bitcoins avant.
Ce qui veut dire que... alors, ça a l'air pratique parce qu'en plus tout le monde vérifie, etc. Mais c'est-à-dire que tu peux pas être en négatif. T'as pas de notion
non.
de.
Il n'y a pas de, prêt, y a pas de découvert, de esprit libre.
Et c'est une sorte de registre d'entrée-sortie.
Ouais, c'est ça, c'est une grosse base de données. C'est comme une grosse liste sur Excel avec l'ensemble des transactions, l'ensemble des utilisateurs et puis le lien qu'il y a entre tout ce beau monde.
Donc le cheminement est le même que pour une banque, sauf que, en gros, je veux opérer un paiement sur Internet en Bitcoin. Mon paiement va partir dans le blockchain. Qui va être, donc tous ces comptes vont vérifier,
une sorte de cloud.
Voilà, une sorte de cloud on va dire, qui va vérifier que je dispose des fonds et que ma transaction est entre
légitime.
Guillemets honnête, légitime,
ouais.
Pour ensuite être transporté vers le revendeur qui va pouvoir faire son expédition.
Mais en plus c'est même pas forcément une sorte de cloud parce que le cloud c'est censé être décentralisé et pas... Alors c'est pour rentrer dans le technique mais...
dans le technique, allons-y, n'ayons pas peur.
Non mais c'est bête, mais quand on dit cloud, c'est genre tu l'héberges pas chez toi et c'est quelqu'un qui l'héberge pour toi.
Parce
et
que le cloud c'est ni plus ni moins que l'ordinateur de quelqu'un d'autre.
Bah c'est ça, mais là ce qui est fort c'est que chacun en héberge une petite partie en fait. Donc c'est décentralisé certes, mais chacun détient une petite partie, donc
chacun détient l'ensemble.
Oui, en plus oui, c'est vrai.
Donc si jamais il y a une seule personne qui se fait qui brûle, eh ben c'est pas grave parce qu'on a toujours, enfin c'est quand même grave pour la personne. Mais après pour la légitimité de toutes les transactions, chacun a toujours son compte en banque, il y a pas de souci. En fait ce qui va se passer lorsqu'on vérifie l'authenticité des différentes transactions qui se passent sur le réseau Bitcoin, on est rémunéré. Et devinez comment on est rémunéré?
En bitcoin.
En bitcoin, bravo.
Malin.
Concrètement, vérifier l'authenticité des transactions, ça consiste à laisser tourner un logiciel sur son ordinateur et être connecté à Internet. On a un logiciel bitcoin qu'on télécharge, on le lance. L'ordinateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ensuite tenter de résoudre un problème mathématique. Il n'y a pas d'astuce connue pour être résolu facilement. Le seul moyen, c'est de faire différentes hypothèses jusqu'à trouver la solution au problème. C'est une sorte de loterie, en fait. Et pour rentrer un petit peu dans la technique, ça repose sur des hashes cryptographiques. C'est pour ça qu'on appelle ça une crypto-monnaie. Donc, afin de valider une transaction et de gagner des bitcoins, il faut résoudre ce problème mathématique. Et on revient tout à l'heure à la notion de preuve de l'effort que j'ai évoqué avec l'argent. Imaginons maintenant qu'on soit un vil piratin, un vil brigand, un fifrelin, je ne sais plus tous les mots qu'on avait utilisés la dernière fois. Imagine si on veut tricher et falsifier une transaction. Ben dans ce cas-là, il faudrait avoir plus de puissance de calcul que l'ensemble de tous les autres ordinateurs sur tout le réseau. Autant vous dire que c'est pas demain la veille que quelqu'un aura cette puissance de calcul nécessaire.
Ouais, faut un monopole, quoi.
Ouais, il faut plus de 51%. Enfin, il faut 51%, quoi.
Et est-ce que cette tâche de vérification, c'est ce qu'on appelle le minage dans le cadre du Bitcoin ?
Tout à fait.
C'est pas la création de monnaie, c'est la vérification des transactions.
C'est ça.
D'accord.
Mais c'est comme ça que la monnaie est créée. Elle est distillée au fur et à mesure. Au tout début, quand le Bitcoin a commencé, quand on réussissait à résoudre un puzzle, on gagnait beaucoup de Bitcoin. Et maintenant, c'est quasiment impossible d'en gagner tout seul avec ton petit MacBook, là. Tu vas trop galérer.
Et du coup, anecdote, parce que le Bitcoin, quand on en parle, ça paraît un petit truc de geek, de niche, mais de ce que je sais, le Bitcoin, ça représente quasiment 0,1% de la dépense énergétique sur la planète.
Ah, parce qu'il y a tous les mecs qui minent.
Ouais.
Ouais, parce qu'au final, dans les faits, ce qui se passe, c'est que les mecs, ils ont des étagères entières de cartes graphiques qui carburent à fond toute la journée, parce que les cartes graphiques, elles sont plus performante pour résoudre ce type de puzzle.
Ah, et puis à l'époque, il y avait des mecs qui créaient ce qu'on appelle des fermes de minage. En gros, c'était des bâtiments entiers pleins d'ordinateurs qui avaient pour seul but de créer des bitcoins, en fait. Ils faisaient pas de transactions. Ils avaient pour seul but d'être travailleurs du réseau et de générer des bitcoins, etc.
Est-ce que c'est à cause de ça que la valeur du bitcoin a augmenté drastiquement ? C'est par rapport au nombre de personnes qui minaient la monnaie ?
Plus il y a de personnes qui minent la monnaie, plus de monnaie est créée et moins facilement on va pouvoir en récupérer après en minant. Par contre, la valeur du bitcoin, selon moi, elle ne vient pas de là, j'en parlerai après.
D'accord.
Vas-y. J'ai juste une question, moi, du coup, qui n'y connaissait rien au bitcoin et qui, à vrai dire, n'avait jamais entendu ce terme avant. Y a quoi comme type de transaction ? Enfin, c'est des gens lambda comme moi qui peuvent utiliser le bitcoin ou... enfin,
ouais,
qu'est-ce
ça.
Que tu achètes ?
Ouais.
Des armes, de la drogue,
des esclaves.
D'accord. Ouais, je vais pas acheter un article sur Amazon avec.
Alors, tu peux de plus en plus. En fait, initialement, il y avait pas mal de commerce un peu illégal, etc. Donc, il y a eu. C'était quoi ? Silk Road, il me semble, qui était
Silk Road, voilà, Alphabet.
Qui était un commerce de drogue, de tueurs, etc. Enfin, d'assassins, enfin plein de choses. Et en fait, il y a eu tout un mouvement de personnes qui voulaient mettre le bitcoin à la portée de tous. Donc, il y a même eu des magasins, on peut en trouver encore aujourd'hui en plein Paris, où leur but, c'est d'expliquer aux gens comment ça fonctionne, à tout le monde, aux personnes âgées, aux plus jeunes, aux techniciens, aux non, enfin plein de choses. Et il y a de plus en plus de sites, même des magasins parfois qui acceptent les bitcoins. Donc, il y a des magasins où tu peux acheter en ligne, un peu comme Amazon, mais tu peux acheter ce que tu veux en bitcoin, en fait.
D'accord, mais alors, du coup, l'idée, c'est qu'à la base, il faut que tu récupères des bitcoins, il faut que tu fasses une action, quoi.
Ouais.
Tu peux pas acheter des bitcoins avec de l'argent réel.
Alors, si
tu peux acheter des bitcoins avec de l'argent réel, tu vas demander à quelqu'un qui possède des bitcoins de t'envoyer un bitcoin et tu vas lui faire un virement de 2 500 €. C'est ce que ça vaut à peu près maintenant, un bitcoin.
Sauf qu'il fallait faire ça il y a quelques temps.
Oh, oui.
Là, t'étais au calme.
C'est vrai, d'ailleurs, le meilleur moyen d'être riche, je sais plus où j'ai lu ça, ce serait si le voyage dans le temps existait, le meilleur moyen d'être riche légalement, parce que si tu dis je voudrais, tu vas voler une banque dans le passé, tu vas te faire griller, ce serait de retourner 10 ans en arrière et d'acheter un max de bitcoin.
Ou d'acheter Google pour 1 €.
on reprend le principe du vil piratin et de la tentative de falsification d'une transaction afin de s'enrichir. Donc, comme je vous disais, il faudra avoir une puissance de calcul gigantesque. Et ce qui est fort avec la blockchain, c'est que c'est plus rentable de participer à son bon fonctionnement en minant des bitcoins, parce qu'on est rémunéré en bitcoin, qu'en essayant de le corrompre. Maintenant qu'on a établi qu'on peut avoir confiance en une monnaie qui repose sur rien de physique et qu'elle utilise un système décentralisé, mais auquel on peut lui aussi faire confiance, on va pouvoir parler des avantages d'une telle monnaie. Alors déjà, ce qui va se passer, c'est que les transferts, ils sont quasi instantanés, c'est de l'ordre de 10 minutes environ.
Pas mal.
Les frais sont nuls, c'est pas comme tes virements à la BNP avec Michel et à la Société Générale. Les transactions sont anonymes et il y a une absence totale de limite dans les montants qui sont transférés.
Alors je rebondis dessus, si je dis pas de bêtises, elles sont anonymes parce que, en gros, pour faire partie du réseau Bitcoin, on a en fait un identifiant qui se trouve sur notre disque dur. C'est comme un
fichier, voilà. Système de clés privées et de clés publiques.
Et notre identifiant, en fait, ce qui va nous identifier sur le réseau, c'est cette espèce de grosse clé monstrueuse.
Ouais.
Et
pas comme ton adresse Yahoo DarkGandalf666.
Voilà. Alors que donc du coup, tout le monde peut le faire. Par contre, pour ouvrir un compte en banque, faut donner ses fiches de salaire, ses machins et tout. Donc là, on est forcément fiché.
Tout à fait. Du coup, c'est plutôt pratique quand on pratique des choses illégales de type vendre de la drogue.
Oui.
Bon, ou recevoir de la drogue.
On ne vous le conseille pas. C'est mal.
C'est interdit. C'est à vos propres risques. Je vais vous donner d'autres faits sur le Bitcoin. Il faut savoir qu'à sa création, une des premières transactions qui a été effectuée en Bitcoin, c'est deux pizzas qui ont été achetées chez Don Pepe pour 10 000 Bitcoins. Alors, un Bitcoin aujourd'hui, vu que ça vaut 2 500 $, ça représente 25 millions de dollars pour ces deux pizzas. C'est plutôt un très bon deal.
Ah putain, mais faisait quelle taille ? Énorme !
Ce genre de pizza m'amène. Tu m'avais demandé tout à l'heure, Juan, comment expliquer que le cours du Bitcoin, il augmente ?
Aussi drastiquement, parce que c'est vraiment impressionnant.
Ouais. Alors,
si on vend des pizzas à ce prix-là, ouais, tu me dis.
Alors, déjà, il y a cette création de sites internet qui permettent de vendre de la drogue. C'est la première fois que tu peux t'acheter ta cocaïne au calme dans ton canapé posé sans aucun risque. Enfin, si, il y a énormément de risques. C'est très dangereux, ne le faites pas.
On refera un autre sujet là-dessus.
il faudrait passer un petit message, tu sais. La cocaïne est à consommer avec modération.
5 fruits et légumes par jour, enfin...
Alors, imagine que pour l'équivalent de 110 euros, j'achète 100 euros de Bitcoin, mais que derrière, j'ai la garantie de pouvoir m'acheter de la drogue de manière totalement anonyme et sans aucun risque. Forcément, je vais payer les 10 euros en plus qui vont faire office de service, mais là, ce qui vient de se passer, c'est que je viens d'acheter pour 110 euros 100 euros de Bitcoin. Donc là, le taux vient de grimper de 10 euros.
Mmh.
C'est à peu près comme ça que ça se passe. Le Bitcoin, il a pas mal augmenté durant ces dernières années, mais il y a une autre crypto-monnaie qui s'appelle l'Ethereum.
L'Ethereum.
Elle s'est lancée il y a quelques temps, et en janvier, elle valait 1 centime. Et maintenant, enfin, il n'y a pas très longtemps, elle valait quelque chose comme 400 euros.
Oh.
Ça fait un gain de 4000% en 6 mois.
Putain de Dieu, tu mets 1 euro, tu gagnes 4000 euros.
Oui.
Et c'est dingue parce que tu vois, j'ai toujours pas. Je connaissais à peu près ce qui s'était passé avec le Bitcoin. J'ai vu sortir l'Ethereum et il y avait beaucoup de pubs sur les médias sociaux. Et j'étais, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et là, je l'ai vu grimper. J'ai fait putain.
Ah là là.
Là non plus, j'en ai pas acheté.
Putain, à côté ça, le livre A, c'est de la nuit.
Par contre, le bilure, j'en ai pas acheté pour le coup.
Mais finalement, c'est un cercle vertueux. Plus il y a d'utilisateurs, et plus ça augmente, c'est ça? Pas forcément.
Pas forcément. Parce que... D'un côté, en
plus d'échanges dans ce cas-là.
Si je résume bien, plus t'as d'utilisateurs, moins tu vas gagner en minant, mais ça va stabiliser le réseau parce qu'il y aura moins besoin d'être puissant pour contrôler tout le réseau. Par contre, ce qui va faire que ça, l'inflation, etc., c'est parce que c'est en fait un produit commercial comme un autre. Comme des tomates, s'il y a un seul mec qui fait des tomates et que c'est très très avantageux, ça va s'acheter très cher. Et là, vu qu'il y a des avantages pour utiliser le Bitcoin...
L'avantage de l'Ethereum, c'est qu'il y a des smart contracts qui font partie de l'algorithme, et en fait ça permet de faire des transactions plus compliquées que je veux donner 10 euros à Michel. Tu peux faire d'autres choses plus compliquées.
Genre et ça intéresse prêts, payer ton loyer.
Ouais, non mais je crois qu'il y a des systèmes de prêts, des choses comme ça.
Putain,
c'est pour ça que ça intéresse beaucoup les entreprises. Mm-hmm. Du coup, forcément, énorme légitimité. Est-ce que vous vous souvenez de John McAfee, le mec des antivirus?
Ah, le personnage.
Le mec
de
des antivirus, McAfee. Ouais, le mec de la coke et des putes sur
ouais,
le bateau.
Ouais, clairement.
Qui est caché en Russie quelque part, dans le désert de je sais pas où. Ce gars-là, il va créer avec son pote une nouvelle version du Bitcoin en août. Donc la communauté Bitcoin va être mise devant un choix. Ils vont devoir choisir soit de rester avec la version actuelle ou alors d'utiliser la nouvelle version que McAfee et son pote ont faite. McAfee, il dit qu'un Bitcoin sur sa nouvelle version, dans 3 ans, ça vaudra plus de 500 000 $. Donc il a commencé à prendre des petits paris sur Twitter. Il fait envoyer des papiers à son notaire et il prend pas de paris en dessous de 100 000 $. Il est vraiment sur des terres, ce mec.
Et des paris? Et genre, c'est quoi le gain du pari?
Le pari, c'est on parie 100 000 $ que dans 3 ans, un bitcoin de ma version vaudra 500 000 $.
Ah, mais si tu gagnes ou tu perds le pari, il se passe quoi?
Ben, si jamais McAfee gagne, il reçoit 100 000 dollars.
Ah oui, d'accord. Okay.
Et si jamais il perd, ben, il doit 100 000 dollars au mec.
Ah. Principe d'un pari.
Oui, je sais.
Il faut avancer les 100 000 dollars.
Je refais une virgule au cas où ce soit pas clair. John McAfee est un grand malade. C'est pas forcément une bonne idée d'aller là-dedans.
John McAfee a dit que si jamais il se trompait, il mangerait sa bite à la télé.
Voilà. Non, mais histoire de bien illustrer mon propos, quoi.
Attends, c'est quand la date butoir du...
Du pari, c'est dans 3 ans.
3 ans.
Putain, j'ai hâte, mon dieu. Ah, ça va être bon, hein.
Ah, mais le spéculateur de monnaie s'éclate.
Ça fait un peu penser à un épisode de Black Mirror.
Ah, mais je vous inviterai à la maison, Chips et compagnie. Enfin, on regarde ça en direct.
Ouais, ça va être énorme. Peut-être qu'il y aura Norton antivirus qui fera un autre truc derrière et tout.
Mais j'avoue, il nous a tellement cassé les couilles avec ses putains d'antivirus que moi je pourrais pas investir dans son truc. Par contre, c'est bien rigolo d'être dans un présent où on peut créer une nouvelle monnaie à partir d'une autre. Enfin, c'est assez ouf. Et c'était bien bien fait.
Oh, magnifique sujet, Karim. J'ai appris plein de trucs, c'est génial.
C'était très intéressant.
Ben oui, voilà. Excuse-moi
merci,
d'être gentil,
merci,
bienveillant.
Merci. Non, c'était vous êtes trop bon.
C'était vraiment chouette. Et putain, ça fait à la fois rêver et flipper, en fait, parce qu'il y a un espèce de malade mental qui peut créer une monnaie. C'est flippant. Mm-hmm. Mais bon, on verra.
Tu nous feras un sujet sur Lycos un jour.
Oh,
pourquoi un chien?
Lycos, va chercher. Bah, parce que va chercher. Et voilà, bien. Sujet fini. c'est bien chouette. Bah, du coup, on va passer à un autre sujet. Maintenant, on va passer à un domaine un peu différent avec.
Non, mais si je ne fume plus. Depuis que j'aime les plantes.
Nombre de ces arbres étaient mes amis.
Pas vrai. Je suis un paresseux. Je repère un arbre, je croque une feuille.
Il faut pas toucher aux arbres.
Donc, on va revenir sur un sujet un peu plus terre à terre au sens propre.
Oh. C'est pas
beau ça.
C'est-à-dire que je vais vous parler des plantes. Beaucoup de personnes ont des plantes chez eux, ça sert un peu de décoration, on les met dans un petit pot de fleurs, on leur met de l'eau, de la lumière à côté de la fenêtre.
On les sèche, on les fume, on rigole.
Aussi, ça dépend des...
Tu salis tout, Karim.
Ça dépend des mœurs.
Ça dépend des mœurs. Et donc, en fait, il faut savoir que ces plantes qu'on prend en soi en décoration ont pas mal de sensibilité, et pratiquement plus de sensibilité que le règne animal. Alors, pour vous expliquer ça de manière un peu plus ludique, je vais découper en fait mon explication en me basant sur les 5 sens animaux. Alors déjà, quand on entend que la plante, c'est un être sensible, je précise que c'est pas la sensibilité au niveau émotionnel, etc.
Elle va pas se mettre à pleurer.
Elle a pas envie de chouiner en regardant
Bridget Jones. Pour l'instant, on sait pas si elles sont tristes ou pas. Mais je parle de l'être sensible au niveau biologique, c'est-à-dire qu'elle a la capacité d'intégrer, entre guillemets, un stimulus extérieur et de
l'intégrer.
Ouais, voilà, de comprendre. Voilà, elle va interpréter un stimulus et engendrer derrière une réponse à ce stimulus. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle la sensation, en fait. Et du coup, ça fait qu'elle va être, entre guillemets, elle va permettre d'échanger avec son environnement et avec d'autres plantes ou d'autres espèces.
Tu peux faire des massages biais,
Tu peux, je suis pas sûre que...
J'imagine que c'est déconseillé.
Je pense qu'il y a des vidéos sur Internet où il y a des forums où il y a des mecs qui doivent faire ce genre de choses.
Malheureusement, il y a tout sur Internet.
Non, mais c'est vrai que, par exemple, tu peux nettoyer tes plantes, tes feuilles de plantes avec de la bière. C'est pas mal.
Ah, ben voilà.
Elles aiment bien la bière. Bon, alors du coup, je vais commencer avec un des 5 sens, ça va être le goût. Alors, le goût, comme on l'entend nous-mêmes avec sucré, etc., c'est pas exactement retranscrit dans le règne végétal. Par contre, il faut savoir qu'elles se nourrissent principalement de 3 nutriments, ce qui s'appelle NPK. Donc quand on achète des engrais, c'est engrais NPK à chaque fois, avec à côté un chiffre qui donne la proportion de chacun des éléments, à savoir NPK, azote pour le N, phosphore et potassium.
Ah, donc c'est pas un acronyme, c'est le...
C'est N d'un côté. En fait, N c'est de l'azote, on dit nitrogène en anglais. Mm-hmm. Phosphore et K c'est le numéro du potassium.
On avait vu ça en SVT.
Il y a longtemps.
Au collège René Rollin. Big up à Madame Arnoux, si tu te rappelles de moi.
D'accord. Pardon.
C'était ma prof de SVT, elle était rouge.
Ça nous fait très plaisir, Karim.
Bon, du coup, elles n'ont pas exactement le goût à ce niveau-là, mais si elles trouvent une zone dans le sol où il y a beaucoup d'azote, les racines vont prospecter dans ce sens-là et continuer à pousser à l'endroit où il y a les nutriments. Et à savoir aussi qu'il y a certaines plantes qui préfèrent pousser dans un sol plutôt acide, d'autres dans un sol plutôt basique, par exemple.
Ça veut dire qu'elles vont avoir une sorte d'odorat ou de goût qui va influer la manière dont les racines vont pousser et qu'elles vont pousser
donc
vers...
Du coup, le goût, c'est pour pouvoir parler de cette sensibilité aux nutriments qu'elle assimile. Mais effectivement, donc, quand elle va sentir que cette molécule est présente, elle va continuer à grandir dans ce sens-là. Quoi. Ah,
c'est comme si elle léchait partout autour d'elle. Et puis, là où ça a le meilleur goût, elle passe par là. Quoi.
On peut voir ça comme ça.
Ouais. C'est dégueulasse.
Donc voilà, ça sera le petit côté goût. À savoir qu'elles n'ont pas de bouche, mais elles n'ont pas non plus d'yeux. Et pourtant, elles ont vraiment quelque chose qui peut s'assimiler à la vue. Parce que finalement, la vue, c'est notre interprétation du visuel chez nous, en fait. Du coup, on va rappeler ça à l'homme. Et c'est la capacité qu'on a à analyser la lumière. Et donc finalement, la lumière, qu'est-ce que c'est ? C'est une onde électromagnétique. Et c'est en fait une énergie qui va se déplacer de manière sinusoïdale. Donc pour imager ça, c'est une montagne, une plaine, une montagne, une plaine. Et donc ce qu'on va appeler la longueur d'onde, ça va être la distance qu'il y a entre deux montagnes.
Donc, entre les deux pics des deux montagnes.
Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, plus la distance va être importante, et moins il y aura d'énergie. Si c'est une grosse chaîne de montagnes type les Alpes, il y a beaucoup de proximité, et donc c'est quelque chose qui est très énergétique. Voilà. Donc, si je dis ça, en fait, c'est parce que, par exemple, dans notre domaine du visible, on s'arrête au niveau du rouge, en fait. Ça va être l'onde électromagnétique qui est la plus faible en termes d'énergie.
Donc, celle qui a la plus grande longueur d'onde.
La plus grande longueur d'onde ou la plus faible fréquence, en fait, on peut dire aussi. Et donc après, nous, on n'arrive plus à voir à partir de là. Par contre, si on continue derrière, il y a tout ce qui est infrarouge, ondes micro-ondes, ondes radio, ondes Wi-Fi, etc. Quoi. Donc nous, on s'arrête au rouge.
D'ailleurs, je crois que c'est pour ça que dans les studios photo qu'on voit dans les films, là, c'est toujours en rouge parce que c'est la lumière la plus faible.
Ah, c'est
et donc
possible.
C'est celle qui fait le moins réagir les photos.
Ah, c'est pas que dans les films, dans la vraie vie aussi.
Oui, bon, ça va, monsieur, je travaille dans l'image. Moi, j'ai juste du 7, ok.
Et donc, à l'inverse, dans notre spectre du visible, on va s'arrêter aux longueurs d'onde qui s'approchent du bleu. Ça va être les longueurs les plus énergétiques. Ça va être 400 nanomètres de longueur d'onde.
C'est pas beaucoup. Hein.
Bon, 400-800, c'est pas mal.
Mais j'essaie d'imaginer des montagnes à 400 nanomètres.
Ça me fait penser à un truc. Donc, c'est-à-dire que les plus fortes, c'est les 400, donc c'est côté bleu. Et ça me fait penser, en fait, sur... déjà, il me semble que ça existe sur Mac, ça doit se trouver sur Windows aussi. Il y a des applications pour dégager la lumière bleue des écrans, parce qu'apparemment, c'est celle qui fait le plus mal aux yeux.
Ouais, Flux.
C'est
Mac, ça s'appelle Night Shift.
Avec un point.
Mmh. Ça va dépendre de l'heure, en fait. Ça fatigue plus ou moins le cerveau de voir telle lumière à telle heure.
Mais on m'a dit que c'était du fake. Hein.
Non.
Oh non, vraiment pas. Moi, je l'utilise, perso. Bon, après, c'est une expérience personnelle.
Si tu regardes un film chez toi ou en deux couchers, il vaut mieux utiliser une lumière plutôt rouge, hein, plutôt dans les spectres rouges que dans les bleus, ça va moins.
Ça se rejoint, je pense. Hein. Et donc, si on continue après le bleu que nous on voit plus par la suite, mais il y a les ultraviolets, etc. Et donc, si je parle de ça, c'est parce que la plante, donc nous on utilise du spectre du 400 à 800, mais alors heureusement qu'on n'est pas capable de voir jusqu'à 2000 nanomètres. De longueur d'onde, parce que en fait, ça voudrait dire qu'on est capable de voir les ondes radio, les ondes. Ça serait un peu le bazar.
Avec le wifi, là,
c'est un peu perturbant. Ouais.
Donc voilà, on
s'arrête. Je capte pas, tu vois pas. Fin...
Donc on s'arrête entre 400 et 800. Et les plantes, c'est un peu pareil, sauf qu'elles vont un peu plus dans les infrarouges. C'est qu'elles vont utiliser la lumière dans les 400, le bleu, et dans le 800, le rouge. Par contre, du coup, il y a toute la bande qui est à l'intérieur qu'elles n'utilisent pas et qu'elles réfléchissent, en fait. Qu'elles réémettent, en fait, dans d'autres termes. Et c'est justement la lumière verte. Donc c'est pour ça qu'on voit les plantes vertes, parce qu'elles n'absorbent pas ce type de lumière et elles la réémettent.
Comme les Heineken.
Voilà.
Ça doit sûrement être un
organisme. Qui réfléchit le milieu de la courbe, effectivement.
Car scientifique.
I'm a bear scientific. OK.
Et donc les plantes, elles vont utiliser justement cette lumière bleue quand elles vont la récupérer. C'est surtout le matin où la lumière est fortement chargée en lumière bleue, en fait. D'un point de vue énergétique, ça s'explique. Et en fait, ça va leur permettre, une fois qu'elles récupèrent la lumière sur leurs feuilles, ça va agir au niveau de leur fonctionnement et ça va ouvrir des petits pores qu'il y a partout sur les feuilles qui s'appellent des stomates. Et ça va un peu comme si elles ouvraient les yeux et puis ça va activer en fait leur fonctionnement.
J'ai vu Ilias qui pensait stomate oignon, un truc comme ça.
Je t'ai vu faire stomate oignon.
Un regard de désapprobation, genre non.
Non, Ilias, non, la fais pas.
Non, les stomates, c'est vraiment les petits
Vélux
des
plantes.
Ouais,
c'est ça. Ça peut.
PNC aux portes.
Non, je pense que c'est pas une mauvaise métaphore.
Ouais, c'est comme si on peut imaginer ça comme des yeux ou une bouche. En fait, c'est par là que va sortir l'eau. Quand par l'évapotranspiration, vous voyez, en fait, l'eau, elle part du sol et elle remonte dans l'atmosphère par les stomates.
D'accord.
Voilà. Et donc, en fait, voilà, ça va être la lumière bleue qui va mobiliser ce mécanisme des petits pores sur les feuilles. Et du coup, concernant la lumière rouge, ça va activer tout le fonctionnement de la plante et ce qu'on appelle la photosynthèse. Donc la photosynthèse, c'est le mécanisme un peu le plus important, on va dire, même sur Terre, parce que ça va être la capacité que les plantes ont, et c'est les seules plantes chlorophylliennes en fait, qui vont faire ça. Elles vont récupérer la lumière, ainsi que du dioxyde de carbone, du CO2, et elles vont créer de la biomasse, donc elles vont créer du tissu vivant à partir de ça.
Et de l'oxygène, du coup, non ?
Ouais, ça c'est un déchet en fait, mais nous ça nous arrange bien.
Pour elle c'est un déchet.
Pour elle c'est un déchet très de l'oxygène.
Ça, c'est trop cool, c'est-à-dire qu'elles bouffent nos déchets et elles font un truc dont on se nourrit, dont on fait déchets, enfin des déchets, dont elles se nourrissent. Mais en fait,
c'est quand même bien fait.
Mais si elles étaient pas là, on serait morts quoi.
Et en plus, on se nourrit d'elles quoi. Parce que vu que nous on n'est pas capable de créer de la biomasse comme ça, parce que finalement ils utilisent un processus chimique, le CO2, un processus physique, la lumière, pour créer de la matière quoi, sauf qu'on n'est pas capable de le faire. Et donc c'est pour ça que c'est les plantes, c'est le bas de la chaîne alimentaire, c'est les producteurs primaires qu'on va utiliser pour créer notre propre biomasse grâce à elles. Quoi.
Du coup, je me pose une question qui peut paraître un peu bête.
Pourquoi on tourne la pelouse
parce que si c'est long, c'est moche. Non, je me demandais bêtement, parce que là, par rapport au fait qu'elles bouffent nos déchets, etc., est-ce que ça peut valoir le coup pour certaines plantes de leur donner, d'enrichir leur air en CO2 ? Genre de leur donner comme une ration de bouffe de CO2 ?
En dioxyde de carbone,
ouais.
Les plantes, elles sont pas du tout limitantes en CO2. Hein. Elles, s'il y avait un effet de serre de ouf à 800, parce que là, on est à peu près à 400 ppm de CO2 dans l'atmosphère. Mmh. Si on montait à 800, elle serait très contente. Hein.
D'accord.
Elle a la couche d'eau.
Mais nous, moins.
L'effet de serre, ouais, ça,
voilà, les gens. On sera un peu mort.
Voilà. Et donc, du coup, vous voyez un peu l'intérêt qu'elles ont de s'orienter vers le soleil, c'est de capter toute cette lumière. Donc, du coup, qu'est-ce que vous connaissez comme plante qui va.
Le tournesol !
Ouais, voilà. Yeah. Il va suivre toute la journée le soleil pour pouvoir profiter au maximum de ses bienfaits. Et il y a aussi une autre plante qui s'appelle Desmodium gyrans. En d'autres termes vulgaires, ça s'appelle la plante qui danse. Et en fait, chacune de ses feuilles, indépendamment, va s'orienter.
Il faut l'avoir fumée avant ou...
Non, non, et à l'œil nu, en fait, c'est pour ça qu'on l'appelle la plante qui danse, c'est-à-dire qu'à l'œil nu, chacune de ses feuilles va bouger et s'orienter pour avoir le moins d'ombre possible et puis regarder le soleil au maximum.
Elle va bouger suffisamment vite pour que tu puisses le voir à l'œil nu.
Ouais, c'est ça.
T'es pas obligé de passer par un
timelapse. Non, tu la regardes et ça bouge, quoi. C'est à l'échelle d'une minute,
mais moi,
je crois.
Ça. Ouais,
c'est pas mal.
Pourquoi on s'achète pas ça ? Pourquoi t'as pas ça, Elias ?
Je suis pas sûr que ça survive dans ton appartement. Mais...
Faudra regarder.
Prochain achat.
Donc là, c'est la plante qui danse sur le soleil et non pas sur la musique. Mais ça nous fait une bonne transition pour partir sur Louis.
C'est bien fait.
Et donc, je sais pas si vous avez déjà entendu parler que les plantes préféraient la musique classique plutôt que le rock. Et en fait, c'est avéré. C'est-à-dire que les plantes qui poussent avec de la musique classique, notamment du violon, poussent mieux que celles qui écoutent du rock.
Et la trappe dans tout ça. Parce qu'elle meurt immédiatement avec de la trappe.
Lorenzo, qu'est-ce qu'on en dit ?
Et donc, en fait, il y a deux explications à ça. La première, ce serait que les fréquences liées donc au violon, notamment, vont stimuler des gènes de transcription de l'ADN et donc la faire croître. Voilà. Et il y a une autre explication qui serait que les ondes électromagnétiques, donc en lien avec la musique, toujours, en fait, ça va stimuler l'ouverture des stomates, donc des petits pores sur les feuilles que je vous ai parlé, ils vont s'ouvrir de manière plus importante et donc ça va augmenter son fonctionnement.
Voilà. C'est ouf, impressionnant.
Donc plus Mozart que Led Zeppelin, quoi.
Ouais, voilà, si tu peux choisir, ou alors si tu peux chanter. Mais c'est tout fait,
voilà. Bonjour, petit
homme. Comme quoi, c'est pas du tout des conneries de faire passer une certaine musique ou faire des trucs avec ces plantes. En fait.
C'est quand même un petit peu. Tu peux leur parler si t'as une voix mélodieuse aussi.
J'imagine que si tu leur racontes ta journée, ça les fait chier, comme tout le monde, mais si tu leur passes de la musique, elles kiffent. C'est cool.
Ouais, tu peux leur raconter de la poésie.
Les fleurs du mal, allez hop.
Et donc là, je vais donner un petit exemple, notamment, c'est que le maïs, donc ça c'est une plante que tout le monde connaît, on a montré que, je crois que c'est une université en Australie, qui a montré que finalement les racines, elles allaient pousser en direction des sons qui émettent, j'ai dit émec du coup, qui émettent des sons à 200 Hz. Voilà, donc en fait, le maïs a des racines qui poussent vers 200 Hz, et il s'avère que, a priori, ce serait lié au son de la pluie. La pluie émettrait vers 200 Hz, et donc du coup, les racines poussent dans ce sens-là. Et il y a une autre explication.
Tu fais pas très bien.
Il y a une autre explication, ce serait que ces ondes à 200 Hz, ça va stimuler au niveau de la plante les mêmes capteurs mécaniques que ceux qui sont utilisés lors du toucher.
Ah. Mmh. Et là, transition.
Ouais, touché.
Oui.
Oh génial.
Voilà,
bien joué,
donc,
bien joué.
Voilà, donc on part...
Professionnalisme maximal.
Sur... Ah, t'as fait le sujet le plus préparé de Pardon Maman depuis sa création.
Tu nous as tous mis à l'amende.
Donc on part sur
Camille
le...
va vous défoncer.
On part donc sur le quatrième sens qui est le toucher. Donc la plante peut pouvoir percevoir des stimuli à deux niveaux, donc en termes de toucher. D'une part, il y a les racines, et d'autre part, ben, il y a les parties aériennes, les feuilles. Donc on va commencer par les racines. Ben, on a montré qu'il y a par exemple énormément d'échanges qui se font par le toucher au niveau des racines, notamment chez les espèces de pins, donc pas les sapins mais les pins, qui vont en fait transférer du carbone qu'ils ont créé et qu'ils ont assimilé par l'atmosphère à leur... petits, on va dire leurs enfants,
leurs bébés pins
qui poussent autour de eux en fait. Donc ça va solliciter la croissance.
Allez, petits,
en leur,
il leur donne
je
la
vous donne la béquille. Ouais,
c'est un petit
cool,
peu ça quoi. Ouais, il y a des transferts de carbone par les racines comme ça qui vont jusqu'aux petits. Et autre chose, c'est que ben quand le gros pin va avoir les racines qui vont prospecter, si jamais ça arrive au niveau des petits pins qui sont en train de pousser, ben, ils vont changer de direction et aller ailleurs. Pour leur laisser un petit peu leurs ressources.
J'ai trop hâte que Disney en fasse un film, quoi. Trop bien.
Papa pain.
Papa pain.
Elle est où, ma maman? Il y a un bûcheron qui l'habitait.
Papa pain part en voyage. Ah bah non.
On est déjà arrivé. Pardon, ouais. Vas-y.
Mais donc, à savoir que ce que je raconte, c'est souvent propre à chaque espèce. Plein d'espèces ont des caractéristiques bien propres, etc. Et donc, à l'inverse, il va y avoir des espèces qui, quand elles vont sentir... des racines qui ne sont pas du tout leurs copines, qui ne sont pas du tout de leur même espèce, bah, au contraire, elles vont accélérer leur croissance et, pour pouvoir augmenter la surface de sol exploité et puis augmenter leur capacité à prendre des nutriments. Quoi.
Vas-y, fiston, nique-le, c'est pas ton copain, tiens, prends les autres.
Pousse.
L'arbre est un loup pour l'arbre, c'est fou.
Ouais, et autre chose, du coup, c'est que, par exemple, pour les plants de tomates, quand elles sont malades... Alors, il faut savoir que la majorité des plantes, en fait, elles vivent en symbiose avec un champignon au niveau des racines qui s'appelle un mycorhize. Et donc, en fait, le mycorhize va récupérer de la nourriture dans le sol pour la plante et la plante va nourrir le champignon. Et donc, en fait, cette tomate, quand elle est malade, elle va, entre guillemets, informer son champignon. Et le champignon...
Elle envoie un SMS.
Et vous savez, les champignons, c'est... Bah, en fait, c'est... Il y a un énorme système de mycélium qui est dans le sol. C'est comme une toile d'araignée qui est très, très... qui s'épand vraiment dans le sol. Et donc, en fait, elles vont toucher plein d'autres champignons. Et donc, les autres champignons des autres tomates vont être avertis que cette plante tomate est malade. Et ils vont avertir leur propre plante tomate qui vont préparer leur système immunitaire.
Ouais, les champignons étaient comparés à des réseaux de neurones.
Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Ouais. Ben, mycélium, c'est une espèce de grosse toile d'araignée dans le sol. Plein de petits fils.
Les mecs qui ont inventé Internet, ils n'ont rien inventé, en fait.
C'est vrai.
Le web.
Ils ont juste regardé.
Ils ont inventé Internet.
Heureusement.
Tu m'as cassé ma blague, je suis un petit peu triste.
Ah, je suis navré.
Donc maintenant, si on s'extrait un peu de la terre et qu'on passe au niveau aérien, il y a donc des feuilles qui vont réagir au toucher. Et qu'est-ce que vous connaissez comme plantes qui réagissent au toucher, par exemple?
Les plantes carnivores.
Ouais, et celle qui est la plus connue, c'est par exemple la Dionée attrape-mouche. En fait, dès qu'il y a une mouche qui va passer, elle va se refermer et du coup, elle va assimiler ben, tout ce qu'elle va pouvoir récupérer du sucre de cette mouche. Et celle que je voulais particulièrement parler, c'est la Mimosa pudica, c'est celle qu'on appelle la sensitive. En fait, ça ressemble
pudica,
à une...
c'est trop mignon.
Elle est un peu pudique, c'est justement pour ça, en fait. C'est-à-dire que c'est une plante qui ressemble à une feuille, et il y a plein de petites feuilles autour de sa tige qui sont toutes indépendantes, et en fait, quand on va la toucher,
c'est
elles vont toutes
capteurs.
Se refermer. Ouais, et elles se referment entièrement. Et donc c'est pour éviter, en fait, de se faire manger, quoi. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, bah, elle protège ses feuilles, elle les referme contre elle, ouais.
Alors c'est très mignon, mais j'imagine un rhinocéros qui arrive là-dessus, je pense qu'elle est fermée, ils sont les couilles.
Ouais, elle se ferme, mais bon... Ouais.
Ah ouais, les mecs, c'est fermé, hein, on change de crânerie.
Je pense que c'est pour être attractif
c'est plus pour
les insectes, mais ouais. Quand il y a un gros truc méchant à côté, oulala, non.
Bah disons que s'il y a un herbivore qui passe dans le coin, tiens, il y a plein de feuilles là, je vais les manger, et dès qu'il la touche, bon bah il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien à manger.
Bon, c'est déjà fini, je m'en suis pas rendu compte.
Et donc, une autre chose intéressante avec cette plante, c'est qu'elle a une espèce de mémoire. C'est-à-dire qu'elle va être capable de différencier les stimuli qu'elle reçoit. Si on lui balance du vent plusieurs fois, la première fois, elle va se fermer, parce qu'elle a reçu un stimulus qui ne l'intéresse pas trop, et voilà, qui est un peu dangereux. Donc, il y a du vent qui va lui arriver dessus, et elle va se refermer. Mais s'il y a plusieurs fois du vent qui lui arrive, eh ben, elle va comprendre que c'est quelque chose qui est inoffensif, et elle va arrêter de se fermer.
Oh, c'est encore Michel, il a laissé la fenêtre ouverte. Du coup, ça fait courant d'air. C'est pas
tu
vraiment dangereux.
Tu Michel ou pas?
Tout le monde s'appelle Michel.
Mais par contre, si tu continues de la toucher, elle va constamment se refermer. Et donc, elle est capable de se souvenir des différents comportements adoptés en fonction des stimuli qu'elle reçoit. Quoi.
C'est vrai que c'est ouf.
Pat, impressionnant.
Et il y a autre chose aussi, du coup, c'est par exemple concernant les maïs. Donc elles, on va les toucher, il ne va rien se passer de physique qu'on peut voir. Par contre, elles vont émettre plein de molécules dans l'air. Et c'est ce qu'on appelle en fait des molécules odorantes. Okay. C'est donc transition vers l'odorat.
C'est-à-dire que même nous, on peut les sentir?
Non, justement, disons qu'il y a plein d'odeurs que nous, on n'est pas capable de percevoir.
Ah, oui,
quand
oui,
on voit par exemple avec les chiens...
Bah en fait c'est qu'il y a plein il y a des ondes qu'on voit pas même si elles existent.
Ah oui,
donc, j'imagine que pour les trucs odorants c'est odorant.
Là
mais
c'est des molécules entre guillemets odorantes mais nous on n'est pas assez
on n'est pas équipé.
Bien des
on
molécules odorantes du métro sentir, genre la ligne 7.
Celle-là on les sent bien. Et donc concernant l'odorat, ça va servir à plusieurs choses. Celle qui est la plus connue c'est l'acacia qui va émettre des molécules dans l'atmosphère et donc ça a été découvert notamment en Afrique du Sud parce que dans une réserve, il y a énormément de gazelles qui ont été ajoutées et elles se sont toutes retrouvées mortes. On ne savait pas pourquoi. Et il s'avère qu'en faisant des autopsies, ils ont trouvé qu'elles étaient mortes de faim, mais en ayant plein de feuilles d'acacia, qui est leur régime alimentaire de base, à l'intérieur de l'estomac. Et en fait, elles n'ont pas réussi à assimiler ces feuilles parce qu'elles étaient pleines de tanins. Et pleines de tanins parce que la plante a essayé de se défendre, en fait. Quand elles ont vu qu'il y avait trop de gazelles, elles n'arrêtaient pas de se faire manger, de perdre leurs feuilles, donc elles ont concentré leur tanin dans les feuilles pour faire en sorte que les gazelles ne les mangent pas. Donc un peu de tanin, ça les repousse, un peu plus, ça les rend malades, et là, il y en avait tellement que elles sont toutes mortes. Quoi.
Oh, c'est ouf.
Ouais, elles ont senti qu'il y avait un prédateur, et du coup, elles ont empoisonné leurs feuilles.
Et autre chose, c'est qu'elles ont communiqué ça à leur copine d'à côté, Acacia, et en leur envoyant des signaux par...
En disant, faites gaffe, il y a des gazelles, préparez vos tanins.
Comme avec les champignons, mais via l'odorat.
Ça, c'est ultra puissant.
Et autre chose, du coup, parce qu'il y a aussi des gazelles aux alentours des acacias, c'est qui ne sont pas du tout sensibles au tanin. Et donc, en fait, elles ont un autre moyen de défense à ce niveau-là. C'est qu'elles hébergent un espèce de fourmi qui pique les girafes. Donc, ça les dissuade aussi un petit peu d'aller les manger, quoi.
J'imagine le fight.
Habile.
Donc là, ça, c'était pour éviter de se faire manger. Mais il y a aussi autre chose, ça va être pour la reproduction. Donc, elles vont envoyer des odeurs dans l'air pour pouvoir attirer les insectes, les oiseaux, les chauves-souris notamment... pour qu'en échange d'un peu de nectar, et ben, elles leur transportent leurs graines.
Putain, mais elles sont beaucoup plus intelligentes que nous.
Je sais pas si on peut parler d'intelligence.
Après, il y a des meufs qui mettent du parfum pour...
attirer
montrer...
aussi. Hein, ouais. Des fois, ça repousse.
Oui, aussi.
Et donc, il y a aussi une capacité qu'elles ont, c'est d'appeler à l'aide dans certains cas. <C'est>... Par exemple, le tabac, il est souvent infesté de chenilles et il va avoir une molécule odorante qui va appeler les punaises, qui va appeler le prédateur naturel des chenilles.
Hey, bande de bâtards, vous essayez de me bouffer, j'appelle mes potes.
Vous allez voir.
Qu'est-ce qui va se passer?
Et par contre, si les chenilles pondent leurs œufs et que les chenilles, enfin, elles éclosent, quoi, le tabac va nourrir ces chenilles et avec un sucre particulier qui va leur rendre une odeur irrésistible pour les prédateurs qui vont du coup appliquer encore plus. Donc c'est un peu vicieux, elle les nourrit pour finalement les voir se faire bouffer derrière. Quoi.
C'est ça, tu vas me buter mais bon, tu vas mourir aussi, tu vas tomber avec moi.
Tu vas voir. Et le dernier point qui peut servir aussi au niveau de l'odorat, ça va être la compétition. Donc il y a par exemple le fenouil, il envoie aussi des puissantes odeurs dans l'atmosphère, et qui vont servir à inhiber la croissance de certains voisins, notamment les espèces de tomates et de piments. Donc si on met du fenouil à côté de tomates et piments, les récepteurs de tomates et piments vont pas du tout être contents d'avoir du fenouil à côté, et ils vont peut-être même mourir.
Voilà, pour le coup, notre odorat d'humain le sent, le fenouil, ça pue, le fenouil, c'est un enfer.
Mais le piment, ça...
Et pourtant, on s'est dit, tiens, ça se mange.
Le piment, ça pue pas.
Bah, c'est fort, quand même.
Enfin, ouais, mais je vois pas le rapport.
Du coup, dans son jardin, il pue. Eh, ça va aller, oui? Je pose une question, là. Je vous dérange pas?
Vas-y.
Du coup, dans son jardin, il vaut mieux pas mettre de fenouil à côté
de
tomates.
Juste à côté
tomates.
De tomates et de piments.
Ne pas mettre de fenouil tout court, c'est bien aussi.
Mais le piment a aussi une certaine capacité à s'adapter, c'est-à-dire que quand on met des graines à germer, elles vont pousser d'une certaine vitesse quand il y a juste du piment. Par contre, si elle détecte qu'il y a une autre graine à côté d'elle qui n'est pas de son espèce, elle va pousser d'autant plus vite. Justement pour aller à la compétition et de pouvoir pousser plus rapidement. Voilà.
Excellent.
Si tu veux bien faire pousser du piment, tu mets des tomates à côté. Et...
Et donc, en fait, on voit que finalement, c'est quand il y a un prédateur, un herbivore ou quelque chose qui les limite qu'elles vont développer des défenses. Et par exemple, à Hawaï, il n'y a pas énormément d'herbivorie. Et la plupart des plantes qui sont là-bas n'ont pas de piquant, n'ont pas d'odeur, etc. Parce qu'elles n'en ont pas besoin. Donc, c'est des plantes qui sont fragiles, finalement. Mmh. Donc, ça voilà, là, c'était bien. Une petite... Enfin, quelques exemples sur les cinq sens. Et je voulais juste finir aussi sur, par exemple, le sens de l'équilibre. Parce que les plantes, vous voyez que souvent, elles poussent dans des endroits qui sont assez abrupts. Et pourtant, elles poussent quand même vers le ciel. Donc, il y a l'héliotropisme qui est lié bon, au soleil. Mais il y a autre chose, c'est-à-dire qu'elles ont des cellules... Ça s'appelle des statocystes et ça ressemble vraiment à nos niveaux à bulles, c'est-à-dire qu'au centre des cellules, il y a un grain d'amidon qui va bouger en fonction de la gravité. Quoi. Et en fait, la plante va savoir que si mon grain d'amidon il est côté gauche, je vais pousser à droite, par exemple.
C'est complètement... On sait si le grain il bouge dans un liquide, enfin quelconque.
Oui, bien sûr, c'est le milieu intracellulaire, c'est toujours liquide.
Ok.
Donc c'est vraiment comme nos niveaux à bulles.
T'as raison, trop forte.
Mmh. Steve ouais. Jobs, t'es vraiment nul. T'as rien inventé.
Je crois que quelqu'un là-bas a compris le rapport.
Et on peut juste finir aussi sur le fait qu'elles se déplacent, même si c'est pas à l'échelle individuelle, au niveau des peuplements, on voit vraiment les plantes qui se déplacent, notamment avec les changements climatiques. On voit que des espèces qui, à base, n'étaient que dans les vallées, commencent à gravir les montagnes.
Ouais, les troupeaux qui font la migration, enfin... C'était bien ouf, surtout c'est impressionnant. Enfin, je comprends pas pourquoi on les fait autant chier alors que c'est aussi utile et aussi intelligent. Enfin, peut-être pas intelligent,
c'est
mais.
C'est trop mignon, c'est trop gentil. Il est tout petit. J'ai envie d'en adopter une maintenant.
Je suis sûr que tu vas essayer de te trouver une plante,
tu vas faire
une plante
un tour,
qui réagit.
Tu vas faire un tour à Jardiland et. Bon, mais du coup, sur cette magnifique.
Ok, personne n'a rigolé à ma blague. Du coup, on enchaîne. Voilà. Sujet suivant.
C'est arrivé plusieurs fois aujourd'hui, t'as remarqué?
Allez, on enchaîne sur le sujet de Juan.
Yes. Moi, je vais vous parler des startups.
Ouais, non, mais là, typiquement, le projet a été mal drivé. T'es pas assez force de proposition.
Ah non, je peux pas, là, je suis sous l'eau.
Si vous lancez une startup.
Une idée, ça ne vaut rien.
Ce que j'ai aimé dans cette entreprise, c'est l'humain.
Alors moi, je vais vous parler un petit peu du langage des startups, tous les mots à la con qu'on utilise dans ce milieu-là. Quand je dis startup, en fait, c'est du langage d'entreprise, mais on aime bien utiliser ce genre de termes pour simplifier. On va passer à côté de ceux qui sont vraiment obvious, du type ASAP.
As soon as possible.
Ce qui veut dire...
Pour hier, lol. Enculé, bouffe mes couilles.
Dès que possible.
Voilà.
On va se calmer.
Tu restes pas très longtemps d'entreprise, toi, il me semble. Conf-call.
Un appel téléphonique, hein, globalement, à plusieurs.
Voilà, donc on est pas mal à entendre ces termes-là.
C'est comme une partouze téléphonique.
On entend pas mal ces termes au quotidien, donc tous ces anglicismes à la con qu'on vous balance à tort et à travers, et j'accuse personne, j'en utilise moi-même. Donc on va commencer tranquillement avec le terme pitch. Ilias, j'aimerais que tu me pitches. Pardon, maman.
Pardon, maman, c'est le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles.
Voilà un pitch très réussi. Donc le principe d'un pitch, c'est de résumer son business, son activité en quelques minutes. Ça vient de elevator pitch, donc le fait de pouvoir expliquer ce qu'on fait dans un trajet d'ascenseur, en gros.
Ah, parce que tu montes ou tu descends, mais du coup tu modifies le pitch comme en musique.
Pas du tout.
Alors rien à voir, mais...
Quand tu prends l'ascenseur, le temps est relativement court. Voilà. Okay. Donc faut pouvoir l'expliquer pendant...
Très intéressant, Karim. Karim, tant que je te tiens, tu vas nous parler du fait de pivoter.
Ah, eh bien le pivot, c'est le fait de réaliser un changement de business model, j'ai envie de dire.
Exactement, c'est quand on va changer radicalement
d'activité,
principalement quand on est sur le point de se casser la gueule et qu'on veut essayer de rattraper le coup et de ne pas perdre tout son pognon, on va effectuer un pivot comme par exemple Peugeot qui maintenant fait des voitures et avant faisait des...
Poiriers.
Bravo.
Ou Nokia qui fait des téléphones, enfin qui fait des cartes maintenant, mais qui avant faisait des téléphones et avant faisait du...
PQ.
Bravo. Ouh. On va parler disruption. Alors, disrupter, ça veut dire quoi?
Tout péter.
Innover.
Entre autres. Disrupter, en fait, ça va être créer une innovation par la rupture et non par l'incrémentation. Si on a imaginons un micro, par exemple, qui existe déjà, on crée un meilleur micro, on le met sur le marché, on a créé un nouvel micro, c'est bien, on est sur de l'incrémentation. En revanche, si on repense le principe de micro qu'on le vend 6 fois moins cher et en direct par internet livré en un jour, là, on a disrupté le marché. En gros, on a défoncé la concurrence avec un concept novateur.
Ouais, on a un marché existant et on fait émerger un truc tellement ouf que ça défonce tout le marché existant et qu'on devient... Enfin, c'est comme si on en crée un nouveau, quoi.
Exactement.
Genre Deliveroo a disrupté le marché de la livraison de nourriture à domicile.
Alors, est-ce qu'il l'a disrupté ou est-ce qu'il l'a ubérisé?
Oh, oh vous avez 4 heures, pas le droit à la calculatrice.
L'ubérisation, en fait, on l'utilise souvent ce terme un petit peu n'importe comment, ça se rapproche de la disruption, mais en gros, ça veut dire se passer d'un intermédiaire. Typiquement, Uber essaie de se passer de l'intermédiaire, de ne pas passer par une centrale de taxi, mais que le chauffeur et le client puissent directement se commander l'un à l'autre. Ce qui est un petit peu ironique parce que le but final de Uber, finalement, c'est de se passer des chauffeurs. Donc en gros, c'est de passer du client à Skynet.
Il se passe déjà des fiches de salaire, des conditions de travail. Des...
Voilà. On fera peut-être un sujet plus détaillé là-dessus.
Si vous avez compris. Je serais bien content qu'il me ramène chez moi tout à l'heure.
C'était mon côté fête de l'humain, pardon.
Donc il y a des mots un petit peu à la con aussi, qui, si on vous les disait comme ça, sans avoir aucun pied dans l'entreprise, ça vous paraîtrait un petit peu bizarre. Typiquement, une licorne.
Oui.
Une super idée.
Non, non,
pas tout à fait.
Plus que ça, une super idée qu'on peut évaluer en valeur, tellement c'est une super idée. Oui. Ça va être une start-up en fait, qui atteint une valorisation d'un milliard de dollars. J'ai bien dit un milliard de dollars.
Putain.
Il n'y en a pas des masses en France, notamment on va avoir Blablacar, Vente Privée. Il y en a potentiellement 2-3 autres, mais je ne les ai pas en tête.
Donc c'est leur estimation sans pour autant être en bourse. En gros, on dit que si quelqu'un devait racheter la boîte, il devrait payer 1 milliard.
Exactement, il la rachèterait 1 milliard de dollars. Alors, on peut toujours les appeler des licornes une fois qu'elles ont été achetées à ce prix-là, mais parce qu'elles ont atteint le statut de licorne. C'est un petit peu la petite coupe qui est posée sur le rebord de la cheminée. Ensuite, une rockstar, ça vous parle ?
Un super ingénieur.
Alors pas forcément un ingénieur, un super employé en tout cas. C'est-à-dire un employé qui va être extrêmement bien formé dans sa profession de base. Dans sa plastique, pas forcément. mais qui va être très formé dans sa profession de base, qui va aussi être aussi un petit peu couteau suisse. On en parlait, Karim, tu m'avais donné une autre expression pour dire la même chose.
Le mouton à 5 pattes.
Le mouton à 5 pattes, exactement. Ce qui est la version non-startup, en fait, de l'expression rockstar, mais oui.
La version année 2010.
Voilà, les personnes nous ayant précédés se référeront plutôt au mouton à 5 pattes. Si je vous parle de jeune pousse...
Une pousse qui sort pas bien vieille, quoi.
Hein. Alors... Les gars, si tu sais pas, t'es obligé de répondre. Hein.
C'est pour donner une définition littérale. Une jeune
la mer
pousse...
noire, non, la mer noire.
Une jeune pousse, ça va être une start-up, tout simplement. Okay. Sauf qu'on l'a bien francisé, l'Académie française aime bien faire ça. Tweeter, vous savez comment on dit en français ?
Oh.
Faire des bruits d'oiseaux ?
Faire un gazouillis.
Non,
c'est vraiment de la merde.
C'est faux, je n'y crois pas.
Non, c'est vrai. C'est gazouiller, tweeter, selon l'Académie française.
Oh, shit.
Faire le buzz, comment on dit déjà ? Faire le buzz.
Faire la vibration.
Le ramdam.
Le raoui.
Faire un ramdam. Si, si, c'est exact. Alors, on va partir sur les acronymes. Je vais me tourner vers l'experte des acronymes, Elodie. MVP, ça veut dire quoi d'après toi ?
Most Valuable Player.
Eh ben non, pas dans le milieu de l'entreprise. Most Valuable Player, ça va.
LeBron James !
C'est vrai que dans le milieu du sport, MVP signifie Most Valuable Player. Dans le milieu de l'entreprise, ça va vouloir dire un produit minimum viable.
Minimum viable product.
Ce qui veut dire, Karim, puisque tu fais le malin.
C'est on va dire qu'on va
prototype.
Développer une application mobile. Et ben c'est une appli mobile qui va contenir le minimum de fonctionnalités, les fonctionnalités clés. Et le but, c'est de pouvoir voir si jamais il y a une traction. Ça veut dire, est-ce que les utilisateurs sont intéressés par mon produit et est-ce que ça vaut le coup de lancer vraiment une version 2 peaufinée de ce que je viens de faire.
Exactement.
En gros, c'est le produit fonctionnel minimal, quoi. C'est pour voir si ça fonctionne.
Minimum viable product, oui.
Ouais. Bah, non, mais fonctionnel surtout. C'est en gros ça. Pour que ça fonctionne, c'est ça. Après, on pourrait faire, oulala, des animations 3D et tout. Mais
il faut vraiment avoir un produit fini. Ça évite en fait des surcoûts en recherche et développement. On peut opposer ça à la POC. Ça vous parle ? La
proof of concept.
Proof of concept, qui ne nécessite pas cette fois un produit. Tu peux en parler de la proof of concept ?
Oulala, proof of concept, en fait, c'est bêtement le fait de prouver que quelque chose fonctionne avant de partir dans des gros développements, etc., ou dans des gros tests. L'idée, c'est de dire, bon, est-ce que pour de vrai, ça fonctionne ? Parce que sur le papier, on a une bonne idée. On fait un tout petit test qui va être dégueulasse, mais qui va prouver qu'il y a un truc à creuser, quoi.
Typiquement, Karim, tu me parlais de Steve Jobs tout à l'heure. Dans le genre proof of concept, on va avoir le premier virus sur iPod, qui s'appelait Pod Lozo. Qui a jamais été relâché en gros, mais il avait pour seul but de montrer qu'on peut mettre un virus sur un iPod.
Ah oui, ok, d'accord. Donc c'est un truc de hacker, quoi, au final.
Pas forcément.
Un truc de bidouilleur.
De hacker au sens premier du terme, pour ceux qui ont écouté le premier épisode.
Absolument. Habile. Si je vous parle de FOMO ou FOBO.
Fear of missing out.
Et FOBO ?
Fear of
blowing out.
Being offline.
Raté.
Mais c'est un petit peu la même chose. Le fear of missing out, ça pourrait aussi marcher pour une soirée. On vous invite à une soirée. Vous vous sentez obligé d'y aller parce que vous avez peur de rater un truc. Dans le milieu de l'entreprise, ça va être plutôt le fait de rater un appel d'offres, rater un tweet si vous êtes committee manager et que vous ratez une...
l'événement
une
de
mode,
l'année.
L'événement ouais, de l'année, voilà.
Passer à côté de la hype, avoir voilà. un train de retard.
Et en fait, c'est une sorte d'aliénation qui a nécessité la création du droit à la déconnexion. Je sais pas si vous en avez entendu
oui,
parler.
C'est assez récent,
tout à fait.
Assez récent, ouais, qui permet à l'employé de pouvoir déconnecter sa boîte mail quand il rentre chez lui, parce que en effet, ça relève carrément de l'aliénation à ce niveau-là. Là, ça va peut-être plus vous parler le GAFA, G-A-F-A.
Alors, Google, Amazon, Facebook, et putain, le dernier me le manque toujours.
Apple.
Apple, bordel. Mais j'aime pas Apple, j'ai plus rien.
Le Big Four.
Big Four.
T'aimes
exactement.
Pas Apple, t'aimes pas Apple.
Alors ça, c'est le Big Four de ce niveau-là. Il y a aussi le NATU, N-A-T-U.
Tu m'as perdu, là.
Alors, c'est un autre Big Four.
Natrium.
Non.
Atrium.
c'est le Big Four de la disruption numérique. Le NATU, ça va être Netflix, Airbnb, Tesla et Uber.
Oh,
exactement.
Bien.
J'avais le U.
Champion. Donc on aime bien mettre 4 lettres pour parler du Big Four. Bon,
c'est plus facile.
On fera peut-être la même chose pour les laitages, je sais pas, Nestlé, Lactel,
Danone,
whatever. Ah, c'est que des consonnes.
Ouais, c'est ça, c'est super chiant à prononcer.
Un IPO.
Une levée de fonds. Une entrée en bourse.
Initial Public Offering.
Ouais, une entrée en bourse,
donc le Graal pour une start-up, c'est de se faire acheter, de rentrer en bourse pour pouvoir se barrer, faire une autre boîte finalement.
Et d'ailleurs, maintenant, il y a un nouveau terme qui est arrivé, c'est ICO. C'est quand on fait une levée de fonds, mais avec de la crypto-monnaie.
Avec de la crypto-monnaie, exactement, ouais.
Si vous avez écouté des podcasts récemment, peut-être que...
C'est un terme assez récent. Au niveau des jobs des intervenants, si je vous parle de Business Angel.
Un mec sympa qui file de la thune.
Oussama Amar.
C'est le tonton sympa qui te file des sous et des conseils.
Non, mais
et des
bien.
Conseils, ça c'est très important.
Viens petit, ton idée elle est bonne. Mm. Je prends 10% et c'est moi qui vais t'aider à la réaliser.
Il te file des sous-sous, il te file aussi des conseils, il te file ses contacts. C'est ça qui est important. Un business angel, ça va être un individu, un investisseur providentiel, on appelle ça, qui va investir son argent, son réseau, son expertise dans une start-up qui est naissante. Vraiment un venture capitaliste qui lui va seulement investir des capitaux, un capital risque en fait.
On appelle ça les dans le milieu les VC.
Les VC, exactement.
C'est une sorte de...
Désolé.
Elle était nulle, mais je rigole quand même.
Bah, c'est pas nul, c'est comme ça qu'on appelle ça.
C'est pas ça qui me fait rire. Là, ils font plus de la spéculation. Ils vont mettre de la thune dans 1000 startups différentes. Il y en a une qui va péter et ils auront
exactement.
10%.
Exactement, c'est moins ciblé. Il n'y a pas le côté affect du business angel. Ilias, tu as vu.
Non, c'était juste pour dire oui, effectivement, il n'y a pas le côté conseil en fait, c'est juste de la thune et puis salut.
Absolument, mais c'est aussi de la thune qui n'est pas attribuée à une seule start-up, mais en effet, comme disait Karim, à plusieurs. Si je vous parle de growth hacking.
Ouh là là, terme full bullshit.
Le piratage de la pousse.
Bah, c'est le fait de hacker la croissance de l'entreprise et donc d'utiliser tous les moyens possibles, imaginables, même si ce n'est pas conventionnel, pour y arriver.
En gros, ça veut dire réfléchir sur comment je peux améliorer ma boîte. Donc apparemment, c'est devenu un boulot. L'avantage, c'est que c'est vraiment fourre-tout. Oh. On peut y mettre n'importe qui. D'ailleurs, vous saurez que le growth hacker, c'est dans les jobs les mieux placés dans les bullshit jobs. Je sais pas si ça vous parle.
Ouais, j'ai lu un article Vice là-dessus.
Et une manière assez simple de définir un bullshit job, c'est quand on n'est pas capable de dire ce qu'on fait dans la vie en moins d'une phrase.
Non, mais le growth hacking, au final, c'est essayer de récupérer des utilisateurs pour une start-up, non?
Tout à fait. C'est le principe de récupération d'utilisateurs.
Mais que ce soit en vendant des cookies ou en faisant un nouveau site web ou...
Tu veux dire faire du guérilla marketing? Oula.
Tu m'as reperdu.
Ça se rapproche finalement du growth hacking.
C'est peut-être une forme de growth hacking.
Ouais, absolument. Allez, j'en ai un petit dernier pour la route, c'est le bootstrapping. Du verbe bootstrapper.
Mettre en place les éléments essentiels pour démarrer une société.
Exactement. En fait, c'est quand on est un petit peu à l'arrache. On pourrait dire avec ma bite et mon couteau, finalement. Un petit peu comme le
avec un bootstrap.
Un petit peu comme le podcast indé, finalement. On est un peu démarré en mode bootstrapping, en récupérant ce qu'on peut et en essayant de sortir quelque chose d'à peu près viable. Donc, tout ça, ce sont des néologismes qu'on appelle de la novlangue. Novlangue qui vient de.
1984.
De.
Orwell.
Bravo. Bah pour dire à quel point on est con, c'est-à-dire qu'on se dirige vers un futur dystopique et en plus on nous a dit exactement ce qu'il fallait pas faire et on le fait, on est vraiment très très con.
Bah voilà, bah j'espère que vous vous y retrouverez mieux maintenant pendant vos réunions bullshit ou en regardant BFM TV.
Alors je vous parlerai BFM aussi Business. du bullshit bingo. Je sais pas si ça vous parle.
Oui, ça me dit quelque chose, vas-y.
Quand vous êtes en réunion, vous pouvez télécharger des petites grilles de bingo sur internet avec tous les mots qui vont sortir pendant la réunion. Genre, ce qui est
juste. Je suis sous l'eau.
Azap, sous l'eau.
Tu
me
fais ça pour hier.
Voilà. Vous pourrez jouer à ce petit bingo. Bon, c'est dur de le faire discrètement. Peut-être que ça y est sous forme d'app sur téléphone, ce sera peut-être plus simple.
Et selon Topito, c'est le meilleur moyen de perdre son job, il me semble. Hein.
bah, disons que si tu vas avec des grains de maïs ou un truc avec des aimants pour le ramasser, ça marche moins bien.
Non, bah j'essaierai non parce que j'ai envie de garder mon job quand même. Mais ok.
Est-ce qu'on est vraiment assez après, Elias?
Ouais. Il va quand même falloir payer le toit, la bouffe. Je m'y suis fait.
Allez, vas-y, Yas, dis-le. Merci, Juan, magnifique sujet.
Et bah, c'est toujours à chaque fois sincère. Merci, il était bien chouette.
Oh, allez. Merci. C'est à toi de jouer maintenant.
Allez, go.
Vous êtes déguisé comme au carnaval.
À moi, tout m'intéresse. Surtout la Nouvelle-Orléans.
Alors, on me prépare un char.
T'es pas content, monsieur? Il a dit quoi?
Que l'on me prépare un char. C'était César dans Astérix. Du coup, comme je vous l'ai dit dans l'intro, je vais vous parler du meilleur spectacle gratuit sur Terre.
Oui, parce que vous savez ce que c'est. Toujours pas dit de quoi t'allais nous parler.
La fête du Lumard.
Déjà, c'est pas gratuit, c'est vrai que c'est cool, mais c'est pas gratuit.
Carnaval.
Ouais, lequel?
Rio.
De Dunkerque.
Non, c'est vrai que les deux sont sympas, mais c'est pas de même ampleur. Non, mais vu la musique, ça vous dit rien? Un petit effort.
Non.
Ah, allez. En fait, c'est
le Bayou.
C'est le c'est le carnaval et plus précisément le Mardi Gras de la Nouvelle-Orléans, enfin de Louisiane et Nouvelle-Orléans. Oui, Bayou.
Putain, il l'avait.
Et c'est considéré comme le meilleur spectacle gratuit sur Terre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Honnêtement, c'est pas volé comme terme. Alors déjà, pour resituer la Nouvelle-Orléans, pardon, c'est la plus grosse ville de Louisiane. Et la Louisiane, c'est un état du sud-est des États-Unis. Donc c'est très grand, c'est près du golfe du Mexique. Et ça a été conquis en 1682 par René Robert Cavelier de La Salle, sacré nom. Et c'était rattaché à la Nouvelle-France. Donc c'est pas le nouveau nom du FN. Hein, c'était un territoire de la France en dehors de notre cher pays. Donc c'est vrai qu'il y a, c'est intéressant, on verra pourquoi. C'est un état et ce sont des villes où il y a une forte mixité culturelle et il y a une grosse influence française, pas influence mais il y a des grosses racines françaises. Alors déjà, on parle du Mardi Gras, moi j'ai dû me replonger dans ce que c'était que Mardi Gras. Est-ce que vous sauriez m'expliquer ce que c'est?
Un jour où on mange plein de beignets.
C'est
les beignets.
Il y a de ça.
Le mardi à la fin d'une période de jeûne, et du coup, ouais, on a vachement la dalle, et du coup, on se
non,
fait
c'est
la
au
fat bouffe.
C'est au début du carnaval.
Voilà,
c'est quand
inverse.
On se met bien avant de jeûner.
Alors, quoi, le carnaval chez les chrétiens, c'est le jour qui marque la fin de la semaine grasse. En fait, c'est-à-dire que pendant une semaine, on mange ultra fat parce qu'on sait qu'on va devoir jeûner pendant 40 jours. Enfin, pas jeûner, mais manger moins gras, donc pas de viande, etc. Donc les mecs, ils mangent ultra fat, et après, genre, rideau.
Rideau.
Genre le dernier repas du condamné, quoi. C'est ouais, mec, profite, fais-toi un gros steak.
Mais c'est exactement ça. En plus, ils font la fête, ils ont bien raison. Alors la date change en fait, parce que c'est 47 jours avant Pâques, sachant que Pâques dépend du cycle de la lune. C'est un peu le bordel. Mais donc, Mardi Gras, en fait, ça va toujours être entre le 3 février et le 9 mars. Voilà, vous le saurez. Le mot carnaval maintenant. Est-ce que vous savez de ce que ça peut donner, d'où ça peut donner?
Carne, ouais.
Chilicone carné.
Ouais, la viande.
Chilicone voilà. Carnaval.
Alors en fait, ça vient, c'est dérivé du latin médiéval.
Carnus.
Carne levare.
Carnum.
Signifie...
Ah non. Lever la viande.
Ouais, enlever, retirer la chair. En fait, c'est parce que pendant.
Garde les viandes.
Pas du tout. Oh, putain, ça. C'est dur. Allez. on s'en remet dedans.
Retirer la chair, donc.
Donc voilà, c'est retirer la chair. En fait, le carnaval, initialement, c'était la période où on retirait la chair, donc après le Mardi Gras. Et maintenant, justement, ça a changé parce que c'est la période avant le Mardi Gras. Voilà, donc c'était une petite explication. Maintenant, je vais vous parler du premier Mardi Gras américain. Il y a plusieurs explications, on n'est pas sûr, mais la plus probable, en fait, ce serait le 3 mars 1699. En fait, il y avait un explorateur qui s'appelle Jean-Baptiste Lemoine de Bienville. Donc J.B. Lemoine, c'est également le nom du nouveau secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères depuis le 21 juin.
Mais on est très content.
Mais c'est pas le même. Donc ce cher J.B. de Bienville, en fait, il a exploré pas mal de territoires à Nouvelle-Orléans, dont un qui se trouve à peu près à 100 bornes de l'actuelle Nouvelle-Orléans. Il appelait ça la pointe du Mardi Gras et ils auraient fait une grosse teuf pour fêter ça.
J'ai une question.
Vas-y.
Comment on dit Mardi Gras en américain?
Alors,
Fat Tuesday?
Alors, la plupart du temps, ils utilisent le terme Mardi Gras. Avec
vraiment,
l'accent, ouais.
Mardi Gras.
Mais il y a aussi le Fat Tuesday. Mais en fait, le Mardi
on
Gras.
On dit vraiment Fat Tuesday?
Ouais, bien sûr. Et Fat Tuesday, ça peut être le côté un peu biblique, chrétien, etc. Par contre, Mardi Gras, ça va vraiment définir la fête, etc.
Ok.
Tout le folklore qu'il y a autour.
Donc, si tu vas manger chez tes parents le dimanche, tu parles de Fat Tuesday. Par contre.
Tu dis rendez-vous à Mardi Gras.
Si tu te la colles avec tes potes, c'est Mardi Gras, quoi.
Ouais, globalement. Quoique, c'est assez familial. Bah, justement, on va passer sur le carnaval moderne. Donc en fait, comme je le disais, le carnaval ça va commencer le 6 janvier, donc pour l'épiphanie, et ça se termine en apothéose avec le Mardi Gras, suivant quand c'est. De nos jours en fait, à la base c'était vraiment religieux, de nos jours c'est une fête qui est vraiment ultra satirique, et en fait c'est l'occasion, un bon prétexte pour faire la fête avec ses potes, s'échapper du quotidien, s'échapper de sa condition, de sa classe sociale, etc. Donc c'est vraiment ultra coloré, c'est la folie, et ça fait honneur à la richesse culturelle de la Louisiane en l'occurrence. Le cœur de carnaval, comme je disais, c'est une grosse fête, c'est les parades globalement. Donc les parades, c'est quoi? C'est des mecs qui défilent dans la rue avec des gros chars ultra colorés. Ouais, mais alors c'est plus traditionnel parce qu'il y a des fanfares ou ce qu'on appelle des brass bands. Donc la différence entre les deux, c'est une question d'instrument, globalement.
Du cuivre.
Voilà. Et voilà, c'est très coloré, très sonore, etc.
Mais c'est pas des gens qui nagent dans une piscine?
Non, non.
C'est pas terrible.
Au secours. Au secours. Allez, j'enchaîne. La première parade de Mardi Gras a eu lieu le 24 février 1857 à la Nouvelle-Orléans. Donc c'est quand même assez ouf, c'est milieu du 19e, ouais, c'est pas tout jeune. Et ça a été organisé par The Crew of Comus, qui est le tout premier crew du Mardi Gras. Alors crew, ça s'écrit K-R-E-W-E.
Crew.
Et, ouais, crew. Et en fait, ça fait référence au terme crew anglais qui veut dire en gros un groupe, un gang, un machin, enfin un équipage.
Un gang.
Un équipage, si vous voulez.
Une clique.
Une fine équipe. Donc maintenant, effectivement, je vais vous parler des crews, l'origine des crews. Les crews, en fait, c'est vraiment le cœur et l'âme du Mardi Gras. Ce sont les entités qui organisent les défilés, les parades, etc. Et ce sont eux qui organisent le Mardi Gras. Donc chaque crew a son thème, son background, etc. Et aujourd'hui, il y en a plusieurs dizaines. Donc c'est assez conséquent. Et certains, comme le Crew of Comus, que j'ai cité précédemment, datent du 19e siècle. Donc c'est assez vieux. Et d'autres, en fait, ont que quelques années. Donc la tradition continue, il y en a d'autres qui se créent, etc. Rapidement, en fait, leur origine, ils prennent leur origine dans des sociétés secrètes qui ont été créées début 1700.
Sociétés secrètes?
Ouais.
Les Illuminati?
Pas loin, en fait. C'était au début de l'histoire de la Louisiane, début du 18e. Et voilà, en fait, c'était des personnes qui se regroupaient, qui avaient des habitudes, des rites, etc. et qui avaient pour habitude de porter des masques.
D'accord. Eyes Wide Shut. Ça y est, c'est parti. On a fait une grosse partouze. Du coup, on va tous monter sur un char et... On va revendiquer notre crew.
Bah, c'était plus familial que ça. Donc je disais aussi, en fait, donc les crews, ce sont eux qui coordonnent qui se coordonnent pour organiser le carnaval. Donc en fait, c'est une initiative qui vient de la population et pas de l'État. Donc l'État investit 1 milliard par an dans le Mardi Gras. Donc ça peut paraître conséquent, mais en fait, ils récupèrent 4 fois leur mise.
Ouais, ça veut venir des touristes.
Donc, ouais, c'est vraiment un événement monstrueux.
Comme la ville de Charleville-Mézières qui organise le Cabaret Vert.
Oui.
Le Cabaret Vert, qu'est-ce que c'est?
C'est un festival de musique.
D'accord, je connais pas.
Charleville-Mézières est connu pour ces deux trucs. Un festival de musique et le festival international des marionnettes.
Ah bah, qu'est-ce qu'on a pas
intéressant.
Raté.
Non mais ouais, de manière économique, ça vaut grave le coup d'investir dans des événements locaux parce que ça te fait vivre les restos, les hôtels, les bars tabac.
Et puis la preuve, on en parle, ça veut dire que ça marche. Donc les crews, comme on disait, une grosse organisation. Faut savoir qu'il y a un droit d'adhésion annuel aux crews. Donc ça peut aller de...
J'ai l'impression que tu parles de stupéflip, ça me fait trop bizarre.
Mais oui, c'est vrai que ça me perturbe aussi.
Le contre-attaque.
C'est un peu ça, le côté un peu mystique, etc. Puis vous verrez, il y a plein d'origines sympathiques. Donc ça va de... Les droits d'adhésion, ça va de $20 l'année à votre avis, combien?
70.
1000 70 000 dollars?
Non. Ouais, plusieurs milliers quand même.
Ah ouais?
Ouais, c'est assez cher en fait, cette participation, ça aide les crews à survivre, à organiser les parades. À
survivre plusieurs milliers par an.
Ouais, parce qu'il y a des crews comme The Crew of Bacchus qui ont plus de 30 chars. Donc t'imagines 30 chars de 10 mètres de long, 5 mètres de haut.
Ah oui, ça va vite.
Full décoré, il y en a qui ont des lumières et tout.
Faut compter toute
la picole
en plus.
Ouais.
T'imagines qu'au Crew of Bacchus, on ne boit pas que de l'eau?
Non, clairement, oui, je pense qu'ils s'amusent bien.
Ambiance Rabelais.
C'est ça. Il y a certains crews qui sont entièrement masculins, d'autres entièrement féminins.
Et à la fin, ils font une grosse partouze. Wouhou !
On va se calmer tout de suite. On se détend. Donc entièrement féminin et les plus gros, donc les plus petits, il y a quelques dizaines de personnes et les plus gros, ça va jusqu'à près de 1000 membres. Donc c'est pas une équipe de foot quoi.
Ils défilent tous.
Ça, je ne saurais te le dire.
Parce que ça fait un sacré paquet de monde.
Y a beaucoup de monde dans les rues, et j'imagine que quand il y a 30 chars, ça fait beaucoup de peuple, mais je saurais pas dire s'ils défilent tous. En tout cas, ils aident tous à la vie du crew, donc à faire les déguisements, les décors, etc.
Alors il y a Michel à la guitare, Gégé à la peinture.
Toujours Michel. Michel d'ailleurs, Michel qui est sur un char, il fait quoi? Il fait la fête et tout. Et surtout, il porte un masque. Donc ça, c'est une des traditions qui a été récupérée parmi dans les sociétés secrètes. Donc en fait, ça permet de s'échapper de sa classe sociale, de ses habitudes, etc. On n'est plus l'adjoint du maire, on n'est plus un patron d'entreprise, on n'est plus un ouvrier, plus machin. On est un mec qui fête Mardi Gras.
C'est finalement le principe même du carnaval.
C'est ça. Et là, ce qui est rigolo, c'est qu'ils portent tous un masque sur les chats et ils sont obligés par la loi. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui dit que toute personne sur un char doit porter un masque.
Sinon, tu prends une amende.
Ben, j'imagine, s'il y a une loi.
Police du carnaval, venez ici, monsieur, vous ne portez pas de masque.
Vous me ferez le plaisir de vous amuser, s'il vous plaît.
Mieux que ça. Maintenant, je vais parler de quelques crews que j'ai considérés comme majeurs. En tout cas, comme je disais, il y en a plusieurs dizaines, on va prendre quelques-uns importants. Déjà, il y a The Mystic Crew of Commuse dont on a parlé. En fait, c'est le premier, fondé en 1856, donc ça, c'est vieux. Et donc, ce sont eux qui sont à l'origine des parades sur des chars. Donc, c'est une tradition qui dure encore, c'est assez ouf. Et leurs membres initiaux sont restés anonymes. Donc, c'est une belle légende qui a été continuée, mais les origines sont incertaines.
Je pense à des mecs anonymes avec des masques, mais... tout en blanc.
Non, c'est pas les mêmes. C'est pas,
aucun
c'est
rapport.
C'est pas les mêmes. Il y a The 12th Night Revelers, qui sont, si je traduis salement, les kiffeurs de la 12e nuit. Voilà. En fait, eux, c'est le deuxième crew de l'histoire, et ils ont fondé ce crew en 1870, et eux, ils sont à l'origine des throws. Donc en fait, c'est, je reparlerai juste après, c'est le fait de jeter des cadeaux, des jolies choses, etc., depuis les chars.
Et la 12e nuit, c'est quoi? C'est le climax du carnaval?
Alors non, parce que le climax, c'est le Mardi Gras, et il me semble que côté religieux, il y a un truc qui se passe la 12e nuit, mais je ne saurais pas vous dire.
Ok.
Parce qu'il y a d'autres trucs qui se passent la 12e nuit, mais voilà, je vous chercherai ça pour la prochaine fois.
Tu parles.
Oh si, allez.
Magazine.
Je mettrai ça sur Facebook. Il y a The Crew of Rex, ils sont très importants aussi.
L'équipe du roi.
Ouais, c'est ça. Rex,
moi, je pensais plutôt au chien, au roi, savez, en latin. Rex.
Alors non, mais on y reviendra aussi, tu verras. Crew of Rex ont créé en 1872, donc c'est assez vieux aussi. Et eux, ils sont à l'origine des couleurs du carnaval, qui sont le violet,
le rouge et le jaune.
Non, raté. Le violet, l'or et le vert. Et en fait, c'est pour la venue du en 1872, justement, du grand-duc de Russie, Alexei Alexandrovitch. Clairement, il est russe. ils lui ont proposé de choisir les couleurs du carnaval. Il choisit ça. Le vrai nom du Crew of Commus, c'est The School of Design, et c'est pour ça qu'ils sont connus pour leurs chars et leurs déguisements qui sont absolument, absolument ouf, faits à la main, les chars décorés à la main, enfin peints à la main, etc. Donc ils ont vraiment une grosse assise au niveau du wow game, comme on dit.
Du wow game.
L'effet wow.
Voilà. On peut parler du Crew of Bacchus aussi. On en parlait. Ces petits fifres
là. Ah oui, les potes de Rabelais là, ils m'intéressent. Alors qu'est-ce qu'ils font?
Alors eux, en fait, ils sont fait connaître parce qu'ils ont été créés en 1868 et ils ont rompu avec la tradition parce qu'ils ont organisé une grosse parade un dimanche.
Ils ont disrupté le carnaval.
Mais exactement. Mais clairement. Et en fait, ils ont fait un événement de ouf. Et en plus, ce qui a marqué les gens, c'est qu'on a vu le jour de ce carnaval, de ce défilé du dimanche, les chars les plus oufs qu'on avait jamais vus de tout le carnaval. C'était vraiment, ils étaient gigantesques, magnifiquement décorés et tout. Donc ça fait sensation. Et ils ont continué à surfer sur cette vague parce que dès l'année suivante, ils ont instauré une tradition qui était d'inviter une personne connue en tant que roi pour leur parade. Donc parmi eux.
Sympa.
Bah, y a des mecs. Ouais, y a des mecs
le roi du carnaval, encore une fois, c'est pas quelque chose de novateur de la Nouvelle-Orléans.
Alors non, mais eux, c'était. En fait, chaque crew peut avoir son roi, son Rex. Et eux, en l'occurrence, c'est eux qui ont lancé ça en 69. Et donc parmi quelques rois qu'ils ont eu, quelques mecs sympathiques genre Kirk Douglas, Nicolas Cage, Michael Keaton et bon j'en ai oublié plein, mais Jean-Claude Van Damme.
Ah, mais déjà Nicolas Cage tu m'avais
Est-ce que c'est le carnaval ou est-ce que c'est moi? Non mais nous formons une unité de carnaval, ce n'est pas la molécule de carnaval qui est en toi.
Merci Jean-Claude Michel. Je vous donner pour finir sur le Crew of Bacchus juste le slogan du Crew of Bacchus qui est In Vino Veritas. C'est simple, efficace.
Oui, voilà, ouais, on aime bien la picole, quoi.
Alors, c'est marrant parce que c'est un des crews les plus connus, en fait, les plus populaires. Donc, ils ont été pas mal copiés.
Tu m'étonnes, les mecs, ils s'appellent Bacchus et ils tissent du vin.
Mais du coup, ça a lancé d'autres idées, genre The Crew of Chewbacchus.
Chewbacchus,
okay. Ouais.
En fait, c'est un...
Elle est subtile, celle-là.
Ah, tu verras, celle d'après est pas mal aussi. En fait, c'est un crew qui est axé science-fiction, satirique.
Sans déconner.
Ouais. Et ils jouent vraiment le truc à fond parce que leur thème de 2017, c'était, alors je vous le traduis, mais c'est véridique, le culte du saint Wookie bourré. The cult of the drunken Wookie. Holy drunken Wookie.
J'adore ton accent anglais.
Ouais. N'est-ce pas?
Ah, la Louisiane, temple du jazz.
N'est-ce pas? Il y a, en rigolant aussi, The Crew of Barkus.
Barkus. Des chiens.
Ouais.
Putain.
Ils font des défilés de chiens déguisés.
Putain, ça me rappelle une anecdote quand j'étais en Autriche. Il y avait le carnaval et il y avait la voiture de l'auto-école qui passait. Et le principe de la voiture de l'auto-école, c'est que tu peux avoir les pédales des deux côtés. Mmh. Et ce qu'ils avaient fait, c'est que habilement, moi je m'en étais pas rendu compte à l'époque parce que j'étais petit, ils avaient mis un labrador côté conducteur. Et du coup, la voiture, elle avançait toute seule. Et je trouve ça très rigolo que le chien conduise la voiture.
Magnifique. Ça se trouve, c'était lui qui conduisait pour de vrai. Et il peut le faire que ce jour-là.
Donc attends, il y a le crew Barcus. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? C'est des chiens, bah, ils aboient, ils ont des masques de chiens.
Non, mais c'est des défilés de chiens déguisés. C'est pas des mecs déguisés.
Des chiens, vraiment.
Ouais. Bah, regardez sur Google, regardez sur Google Crew of Barcus et vous allez voir plein de chiens.
Regardez plutôt sur YouTube, ce sera beaucoup plus marrant.
C'est vrai.
Aussi. Un petit dernier, allez, parce que c'est un des préférés en plus des spectateurs, c'est The Crew of Zulu. Il a été fondé en 1909 par des ouvriers membres d'une Benevolent Aid Society. En fait, c'était une des premières formes d'assurance santé pour les Noirs aux USA. Donc c'est un événement quand même assez... Enfin, c'est un fondement assez ouf.
Revendicateur.
Ouais.
Novateur. Disrupteur.
Ouais. Mais, non, pas disrupteur. si, ou quoi, j'en sais rien.
J'essaie de placer des mots-clés depuis tout à l'heure.
Si, pour l'époque, c'était quand même...
Je sais pas utiliser ce terme.
Non, en fait, non, ça colle pas du tout. Enfin, cool.
Donc ils sont vachement appréciés. Ils ont eu notamment, bah, eux aussi, ils ont des kings, hein, comme d'autres. Et le King of Zulu 1949, à votre avis, qui ça pouvait être?
1949, Elvis Presley.
Un jazzman.
Ouais, c'est The Crew of Zulu, hein, je te rappelle. Hein. C'est pas The Crew of Zulu.
Nouvelle-Orléans avec le Crew of Zulu, c'était, je sais pas, Miles Davis.
Non. Jazzman, si je me trompe pas, c'est ça, Miles Davis?
Oui. Ouais. Il jouait de la trompette,
je crois. Ouais, je crois que c'est un trompettiste. Bah, c'est pas loin. John
Coltrane.
On est bien, bien. Coltrane, c'était pas du sax.
Louis Armstrong.
Oui, Louis Armstrong, très bien.
Très bon, Louis Armstrong. Tu peux arrêter maintenant.
Ouais, on va s'en passer. Mais c'était un bel effort qu'il ne voudra pas reproduire, mais c'est un bel effort. un des trucs qui fait que les Crew of Zulu sont très très appréciés, c'est un de leurs throws, en fait, c'est les Zulu Coconuts. C'est parmi les cadeaux jetés. Ouais.
On dirait une bande de stripteaseuses.
Non, quand même pas.
Ah, si, Zulu Coconuts, ça sonne. Ouais, enfin, le principe, c'est qu'ils jettent des noix de coco, c'est ça?
Ouais, ils jettent des noix de coco décorées. Et en fait, les gens les surkiffent. Genre, c'est, ouais, c'est un des choses les plus qui attire le plus les gens. Et ouais, c'est à ce point-là dangereux qu'en 1987, il y a eu trop de procès, donc plus d'assurance. Ils n'avaient plus le droit d'avoir une assurance, le Crew of Zulu. Et donc, en 1988, ils ont dû faire passer une loi pour que les noix de coco jetées depuis les chars ne puissent plus faire l'objet de procès. Ouais, non, de procès pour blessure. Donc à ce jour, en tout cas, c'est toujours interdit de se plaindre pour avoir reçu une noix de coco sur la gueule.
Du coup, il faut mettre un casque de vélo, c'est ça?
Ah ouais, je sais pas, ma casque de vélo, des battes, je ne sais pas, mais il faut se protéger en tout cas. Ce qui est sympa pour finir sur les crews, c'est qu'en fait, il faut comprendre qu'ils ont une existence même en dehors du carnaval. C'est-à-dire que le reste de l'année, ils vont aussi mener des actions de charité, organiser des soirées, qu'elles soient publiques ou non, etc. Donc ils vivent vraiment avec la société et leur communauté. Donc c'est assez louable et
ils
assez
ne vivent que pour le carnaval finalement. Ils attendent ça vraiment toute l'année.
Bah, ils attendent vraiment ça, mais comme on disait, notamment avec le Crew of Zulu qui était issu des membres d'une Benevolent Aid Society, ils avaient une existence avant et ils se sont décidés de se retrouver. Donc c'est plus un moyen de se retrouver qu'autre chose.
Faire de la pub peut-être aussi, montrer qu'ils existent.
En tout cas, ça doit être absolument génial à voir.
Passer un moment convivial.
Ouais, ça a l'air vraiment vraiment ouf. En plus, voilà, on peut récupérer des petits trucs. Donc là, on passe, on froze. En fait, bah, déjà, ça c'est une tradition qui remonte au 19e siècle. Et c'est globalement une parodie des coutumes de la Renaissance européenne où les riches allaient jeter des richesses, des pièces d'or, etc. aux pauvres quand ils passaient.
Tenez maintenant.
Voilà, donc ça, on voit encore que c'est un truc très très satirique. Et qu'est-ce qu'on jette? On jette des collets de perles qui sont couleur du carnaval. Initialement, ils étaient en vert teint et de nos jours, ça se fait plus parce que je pense que ça serait le bordel dans les rues. Maintenant, c'est du plastique dégueulasse, voilà. Mais c'est assez, on le voit pas mal dans certains films américains, les colliers ultra longs et oh, moi j'ai ramassé 20 colliers, etc. Donc il y a ça, c'est un phrase assez connu. Et les doubloons, avec l'accent s'il vous plaît.
Les doubloons.
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 Ouais, en fait, c'est des répliques de pièces espagnoles en or, enfin en faux or en l'occurrence. Mais c'est pour c'est The Crew of Rex, il me semble, qui a ramené cette tradition. Et voilà, c'est assez sympa. On jette plein de pièces de fausses pièces d'or. Et après, il y a aussi plein d'objets, des gobelets, des bonbons, des peluches, des noix de coco. Voilà. Comme quoi, c'est assez libre. Je vais vous parler d'une dernière petite tradition qui m'a vraiment marqué, en fait, quand je me suis renseigné sur le Mardi Gras, quand j'ai vu des trucs à ce sujet-là. C'est ce qu'on appelle le Black Mardi Gras. Et globalement, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi les Indiens. les Indiens du Mardi Gras. En fait, voilà, initialement, le Mardi Gras semblait inaccessible aux populations des ghettos parce qu'il fallait faire des costumes, il fallait avoir des références historiques, etc. Enfin, ça paraissait assez inaccessible. Et en fait, ces personnes se sont mis à célébrer leur propre Mardi Gras avec leurs traditions, etc. Ils se sont historiquement rapprochés des populations amérindiennes parce que historiquement, en fait, c'était parmi les seules populations qui acceptaient les esclaves qui s'émancipaient, qui récupéraient leur liberté, etc. Et le fait de célébrer Mardi Gras en appelant ça Indian Mardi Gras, etc., c'est vraiment un hommage à cette époque. Initialement, c'était très violent ces Indian Mardi Gras parce que c'était l'occasion pour les gangs de régler leurs comptes pendant que la police était occupée autre part.
Rien à voir avec l'événement le plus sympathique au monde.
Voilà, initialement, quand les Indian crews se croisaient dans la rue, ils se saignaient. Mais genre, vraiment, c'était vraiment violent, quoi. De nos jours, c'est un peu plus cool parce que, en fait, ils font des danses, ils chantent, ils jouent avec ils ont des grands masques à plumes, etc. Enfin, c'est quand même assez bon enfant. Et il y a beaucoup de respect et d'appréciation vis-à-vis des costumes. Ces costumes, ils peuvent valoir, à la base, ils étaient faits un peu à l'arrache avec ce qui leur tombait sous la main. Ils peuvent valoir maintenant jusqu'à plusieurs milliers de dollars. C'est vraiment
ouf. Un seul costume ?
Ouais. Ça fait 3 mètres de haut, il y a des plumes de ouf, hein, c'est la folie. Et c'est dommage parce que c'est un peu contradictoire avec l'idée initiale qui était que le Mardi Gras était un peu inaccessible aux populations pauvres. Bah ouais, là ton costume à 10 000 balles, non, pas possible quoi.
Petit anarchiste.
Mais de même, je vous conseille de regarder. Je vous conseille de regarder sur Google Indian Mardi Gras et vous verrez, les costumes sont vraiment ouf, sur YouTube aussi. C'est vraiment assez impressionnant et notamment au niveau du jazz, des chants, etc. C'est beau parce qu'ils ont repris des traditions, des termes issus des populations amérindiennes. Je vais finir rapidement sur les quelques rôles qu'on peut trouver chez les tribus indiennes, enfin de Mardi Gras. Donc il y a le Big Chief, en gros c'est le grand chef qui les mène. Le Spy Boy, en fait lui il va être tout devant, il va donner les indications quand ils vont rencontrer une autre tribu ou qu'il va falloir bifurquer parce qu'il y a du monde, etc. Et le Flag Boy, en fait le Flag Boy il va faire le relais entre le Spy Boy et le chef. Et le Flag Boy il va porter un gros drapeau et il va faire des gestes suivant les ordres du Big Chief pour diriger globalement la tribu. Donc c'est assez sympa, c'est ultra festif parce qu'il y a plein de costumes et tout autour de ces tribus, il va y avoir des brass bands, des fanfares, etc. qui vont mettre l'ambiance. Ça va jouer du jazz, ça va chanter, ça va danser, enfin c'est assez la folie. Dernier tout petit détail, c'est que les Indiens, en fait les parades des Indiens, contrairement aux autres, sont pas du tout prévues à l'avance. Les autres, on peut savoir des mois à l'avance à quel endroit, dans quelle rue, à quelle heure. Les parades des Indiens, c'est jamais prévu à l'avance, ni le lieu, ni l'heure, c'est au bon vouloir du Big Chief. Donc faut être sur le coup. Je vais finir par par un petit côté plus jeune, festif, etc. C'est le French District. C'est le quartier français et c'est assez, on va dire, mal réputé, mais pour les familles, c'est pas du tout familial. C'est le côté ultra adulte où les jeunes font la fête, boivent beaucoup, il y a des flash boobs. Donc il y a la tradition de flash boobs pour avoir un collier. Donc autant vous dire que c'est pas du tout familial. Et voilà, et même sur les sites qui traitent de Mardi Gras, on déconseille aux touristes de se balader là-bas s'ils y vont avec leur enfant.
C'est le spring break, quoi.
Totalement, totalement. Mais ceci dit, pour faire la fête, pourquoi pas, ça peut être sympathique. Je finis par une dernière reco, ce sujet, reco ultra intéressante, la série Treme, T-R-E-M-E, de HBO, qui décrit la situation en Nouvelle-Orléans, enfin à Treme plutôt, mais près de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane en tout cas. Situation post-Katrina, donc après l'ouragan, et c'est assez ouf. On voit comment ils respirent musique, ils vivent musique, etc. C'est assez impressionnant, c'est ultra touchant. Et il y a même un jazzman qui s'appelle Kermit Ruffins, qui est un trompettiste qui joue son propre rôle dans la série. Donc ça, c'est chouette, c'est ultra enrichissant et voilà, c'est vraiment sympa. Maintenant, je vous encourage à aller fêter le Mardi Gras en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans. Et d'ailleurs, le prochain sera dans 196 jours, 1h, 32 minutes et 28 secondes. Donc j'espère pouvoir y aller et pourquoi pas vous y voir.
Il y a un compteur Mardi Gras devant lui.
Et ouais, ça déconne pas. Hein.
Tu regardes,
on est ravis de le savoir. En tout cas, ça donne envie d'aller jeter un coup d'œil.
En tout cas, Elias, magnifique sujet, merci beaucoup. Ah. On a vraiment appris beaucoup de choses.
Eh ben merci, ça m'a fait plaisir aussi. Dans tous les cas, cet épisode malheureusement touche à sa fin.
Oh non.
Il faut bien. Hein.
Comme toujours, on a pris beaucoup de plaisir à le faire.
Énormément.
Et on vous remercie. Je vous remercie vous à cette table et puis on remercie tout le monde pour les gentils messages, etc.
Merci Michel surtout.
Oui, Michel, toujours la Michel.
Je suis sûr qu'il y a un de nos fans qui s'appelle Michel.
Oui, bah, je pense
vais diguer.
Statistiquement. Mais non, ouais, voilà, sur Facebook, Twitter, iTunes, etc., on a des messages vachement sympathiques, vachement gentils, ça fait plaisir. Donc on va continuer à faire des jolies choses.
Parce qu'on vous aime.
Ouais, on a découvert des podcasts sympatoches aussi. Pim Pam Poum.
Pim Pam Poum, c'est pas la première fois qu'on parle d'eux.
C'est vrai, mais ils sont quand même bien sympathiques. Non, voilà, des petits trucs comme ça. Donc on va continuer à draguer les événements et puis peut-être vous voir un prochain apéro podcastique, peut-être.
Mais faisons une soirée, pardon maman.
Bien sûr, mais pour ta crémaillère peut-être.
Je vais en parler à ma meuf et je vous rappelle, voilà, dans 6 mois.
On verra.
En tout cas, on aura plein de surprises pour la rentrée.
C'est ça.
On est en train, à notre sueur et nos larmes, de préparer un petit studio.
Ouais, on est en train de préparer un petit studio pour avoir un studio statique, pour inviter plus de gens, etc. Donc on va vous envoyer des photos, vous verrez.
Et crémaillère du studio.
Et qu'on essaie d'avoir à peu près le même son sur tous les épisodes, surtout.
Ouais, et ça sera cool. On aura une magnifique déco, pardon, maman et tout. Non, on va vous envoyer les photos de la progression des travaux, vous verrez, c'est bien chouette. Et puis, bah, dans tous les cas, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.
Bisous.
Et ce sera avec grand plaisir.
Allez, ciao.
La bise.
Qu'est-ce que c'est, ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer?
Skitty!
Vulgaire? Je trouve ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.